Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Becketch, dirigé successivement par Serge de Becketch, assisté de Victoria et par Daniel Amiche. Document d'archives du 22 janvier 1997, rediffusé dimanche 24 octobre 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Vous avez tous reconnu la marche funèbre
de Monsieur Chopin.
Fredo. C'était pour qu'il ne soit pas dit que sur Radio Courtoisie, le 204e anniversaire de la mort du roi martyr aura été passé sous silence. On a un jour de retard, mais enfin, à chacun selon ses moyens. Je ne pouvais pas être à l'antenne hier, et je pensais que quelqu'un y songerait. Ça n'a pas été le cas, donc j'assume avec un jour de retard. Mais j'ai quand même un petit peu l'impression que c'est un manque. Je me demande ce que diraient les auditeurs de Radio J si on célébrait la mémoire des heures les plus sombres une fois tous les 100 ans. Eh bien, nous, notre heure la plus sombre, c'est la mort de Louis XVI, et je trouve que ça mérite au moins 5 minutes de musique et de recueillement une fois par an.
Eh oui.
Pas vrai ?
Mais oui, mais oui.
Parce que Victoria, elle est royaliste, elle est comme moi.
Permettre une fois par an tous les 100 ans.
Moi, je sais plus ce que je suis.
mathématiquement, ça marche pas, ce que tu viens de dire.
Il n'est pas écouté. De Martinez n'écoute jamais ce qu'on dit, de toute façon, s'en fout. Il y a ce qu'il dit, lui, ça l'intéresse.
Oh non.
Serge Martinez.
Ça va chauffer.
Bon.
Vous m'avez l'air d'une humeur charmante, Serge.
Je suis remonté comme une pendule franc-comtoise.
Une toupie hollandaise.
Une toupie hollandaise. Alors, j'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos amis résistants. Et avis à ces messieurs dames de la collaboration qu'ils en profitent parce que ça va vraiment durer moins longtemps que les impôts. Et je peux même vous dire que quand ça sera fini, vous allez regretter le bon temps si ça ne dépend que de moi. Vous avez du souci à vous faire. Messieurs les collabos, messieurs les censeurs, messieurs les petits espions. Les petits espions qui écoutent cette radio. Ah, il dit des choses pas bien, monsieur Bekech. Est-ce correct, politiquement correct, saisi, interdiction de parler, fusillé. D'abord quelques... Alors, je continue les présentations. J'ai dit Caroline... Est-ce que j'ai dit Caroline Parmentier?
Non, n'importe quoi.
Caroline Parmentier, qui vient nous parler de son livre. Journaliste. Serge Plénier, qui, comme son nom ne l'indique pas, est breton.
Si, c'est un nom breton.
Ouais, bah, enfin, le prénom.
Non, le prénom n'est pas breton, le nom est breton.
Sergec, Serginec peut-être, mais...
Non, Serge, en breton, c'est écrit S-E-R-J, tout simplement.
Oui, ça se manque d'orthographe, c'est tout. Alors, Serge Plénier, qui est quand même... il est là pour nous parler de la Bretagne, il est là pour nous parler d'une revue dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Breton d'ailleurs, et qui vient de publier un numéro spécial sur les Bretons de Paris, car il y a aussi des Bretons à Paris, qui est vraiment une ville maintenant assez cosmopolite, si les Bretons se mènent à venir.
Paris est la première ville bretonne.
Est-ce qu'on a encore le droit de dire les Bretons à Paris, et Bretons, c'est une discrimination, là, hein?
Breton?
Ouais.
Tête de béton, on dit.
On va encore poursuivre, là.
On parlera avec... Et alors, c'est ça que je voulais dire, Serge Plénier, en plus, est responsable d'une des meilleures radios.
Enfin, responsable, je suis...
Co-responsable.
Un des animateurs de Radio Pays.
Voilà, de Radio Pays, qui est une des meilleures stations de la bande FM. D'abord, pour la première raison, c'est une de celles qui émet le moins. Donc c'est là qu'il y a le moins de chances de dire des bêtises, quoi. C'est vrai que 24 heures sur 24, il y a quand même beaucoup de risques. Sauf sur Radio Courtoisie, bien entendu. Tandis que combien d'heures par semaine?
Eh bien, nous partageons notre antenne avec Radio Aligre. Donc, mi-antenne et Radio Pays, la radio de toutes les communautés ethniques, bretons, corses, basques, catalans, occitans.
Ouais. Alors moi, j'aime bien écouter Radio Pays parce qu'ils font comme certaines autres radios libres. Par exemple, il y a une émission qui est consacré aux détenus. Toutes les radios libres sont beaucoup écoutées dans les prisons. C'est même Radio Courtoisie. Même mon émission, moi, j'ai découvert avec surprise, en recevant des lettres de Tollard, que j'étais écouté. Et pas toujours avec,
antipathie.
Pas du tout. Mais alors, ce qui est rigolo avec Radio Pays, c'est que, par exemple, Radio Beurre, il s'adresse aux détenus Beurre. Radio Tartampion, il s'adresse aux détenus Tartampion. Et Radio Pays, il s'adresse aux détenus politiques de la lutte pour la libération des provinces. Bon, je trouve qu'en France, comme on est quand même un pays qui est assez proche de la purée démocratique, il y a assez peu de détenus politiques.
Il y en a.
Il y en a, mais pas suffisamment pour faire deux heures d'émission, faut bien dire.
Non, mais pour les Bretons, une fois par semaine... Surtout quand il y a eu l'affaire des Bretons qui vont héberger des Basques, d'appartenir à l'ETA, j'ai bien suspect.
C'est ça qui m'avait fait bien rire, entre nous, enfin rire, façon de parler, parce que j'ai quand même beaucoup de respect pour ces gens-là, même si je partage pas leurs objectifs, mais j'ai du respect pour les gens qui mettent leur liberté au bout de leurs idées. Mais ce qui m'avait fait rigoler quand même, c'était d'apprendre que les Bretons s'étaient mis d'accord avec les Basques. Parce que je m'étais dit, pour peu qu'ils arrivent à s'entendre avec les Alsaciens, avec les Tourangeaux, avec les Savoyards, avec les Provençaux, avec les Bordelais ou les Girondins, avec les Charentais, avec les Ch'timis et tout ça, ils vont finir par faire une espèce de grande confédération des provinces. Il va falloir trouver un nom, on pourrait appeler ça, fédération des régions autonomes et néanmoins coopérantes etc. Et on pourrait appeler ça la France, vous voyez.
Oui, à ceci près que Radio Pays concerne essentiellement les communautés ethniques, c'est-à-dire dont la langue est différente du français. Je parle par exemple des Flamands, je parle des Basques, je parle des Corses, je parle des Occitans, je parle des Bretons. Nous parlons des langues qui ne sont pas la langue française.
De ce franc. C'est franc aussi. Non, c'est franc, ils n'ont pas le droit. Non. Bon. Vous pouvez dire quelques mots aux Bretons, alors, qui nous écoutent.
Il y a Galranlad à Dame Renvoidi, Galranlad à Retonet, Hag, et je studais de gauche, paix de Gilao, radio, zo, Pem et Gwener, par 13 Capergen Pic, 1 an de mégahertz, à Gazo Radio Gros, c'est tout.
Voilà, ben c'était très bien. Moi, je trouve que quand même, le français, en gros, est plutôt un progrès, hein. J'ai essayé de le faire sortir de ses gonds, mais ça va être difficile parce que visiblement, il a le calme des vieilles troupes.
J'espère qu'il n'a pas dit des énormités.
On ne sait pas, on ne saura jamais. Et peut-être Brignot peut savoir, mais est-ce qu'il nous écoute?
Non, il ne sait pas,
Ah, mais s'il est du pays gallo? Non,
non, il n'est pas du tout, breton.
Non. Pas breton, non.
Un
breton.
Mais pour la langue française.
Ah là là, bon, ah, c'est dit de bêtises. Le pasteur Blanchard, qui est pasteur, comme son nom l'indique, Jean-Pierre Blanchard, et puis son bras droit et son bras gauche en même temps, Jean-Claude Hens, qui vont nous parler de... Qu'est-ce que j'ai dit, Jean-Claude? Pourquoi, ça te plaît pas, Jean?
Je dis comme ça, je ne sais pas pourquoi.
Alors, Claude Hens, qui vont nous parler d'un projet très sérieux et très sympathique, auquel ils sont en train de travailler. Mais avant tout ça, je voudrais... Et puis Victoria, bien sûr, qui est à côté de moi. Avant tout ça, je voudrais faire quelques petits commentaires personnels rapides. Et je voudrais répéter encore une fois, je vous en supplie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je parle surtout aux 250 000 nouveaux éditeurs qui viennent de rejoindre les 12 millions d'auditeurs de la semaine dernière. Le libre journal que vous écoutez, qui est le libre journal de Serge de Becquet, c'est-à-dire moi-même, sur Radio Courtoisie. C'est une chose qui est sur la radio. Ce que vous écoutez là, c'est de la radio. Quand c'est avec les oreilles, c'est la radio. Quand c'est avec les yeux, c'est un journal. Alors, il y a un journal imprimé pour les yeux qui s'appelle le Libre Journal de la France Courtoise. Ça n'a rien à voir, mais absolument rien. C'est un peu comme, Le Pen, député européen et conseiller régional de PACA. C'est vraiment deux choses différentes. C'est toujours Le Pen, mais quand il est à Strasbourg ou à Bruxelles, et quand il est en PACA, il a des activités différentes. Alors, moi, à la radio... Je fais de la radio parce que ça repose les yeux. Et quand je suis dans mon journal, je fais ce que je veux dans mon propre journal. Et je suis bien content parce que c'est enfin un endroit où je peux dire absolument tout ce que je veux, sans contrôle ni censure. Et la seule chose, c'est que ne croyez surtout pas que quand vous payez votre cotisation à Radio Courtoisie, vous allez recevoir en prime le Libre Journal de la France Courtoise. Parce que ça, c'est pas dans nos moyens. En revanche, si vous vous abonnez au Libre Journal de la Franche Courtoise, vous pouvez écouter Radio Courtoise. Ah oui, ça, personne ne peut vous en empêcher, vous voyez. Donc, au fond, l'astuce, c'est quand même ça. D'autre part, Radio Courtoisie va célébrer cette année son 10e anniversaire. Et à cette occasion, un magnifique cadeau a été offert à nos adhérents. C'est-à-dire qu'on leur a proposé de doubler leur adhésion. Ce qui montre quand même qu'on est prêt à tout pour faire plaisir.
En nombre ou en prix?
Ben, si ça pouvait être les deux, ça serait bien. Alors, pour l'instant, c'est en prix. Mais c'est une proposition, c'est pas du tout une obligation. D'ailleurs, on ne peut pas obliger les gens à payer quelque chose qu'ils peuvent voir gratuitement. Et surtout quand on leur propose le double. Alors, les plus arrangés dans cette histoire, c'est ceux qui ne cotisent pas, puisque 2 fois 0 étant toujours égal à 0, eux, au moins, ils sont dans le ton. Mais le Libre Journal ne double pas, c'est une grande nouvelle, je vous en informe, ne double pas le montant de cet abonnement. Et donc, il reste à 600 francs par an pour l'abonnement, 500 francs par an pour le réabonnement ou pour un abonnement offert par un abonné. Caroline, comme vous êtes la plus jeune, vous m'arrêtez si c'est pas compréhensible. Hein, parce qu'il y a beaucoup de mots quand même. Et je sais que les jeunes ont des difficultés parfois avec le vocabulaire. Hein. Alors donc, voilà. Alors, si vous voulez vous abonner au Libre Journal, qui est très bien fait, je dois dire que moi je trouve remarquable. Je sais pas, Serge Martinez,
c'est un chef-d'œuvre.
Est abonné, Serge Martinez. Il paye son abonnement en plus. Ce qui est incroyable. Même Le Pen est abonné.
Alors
non, mais je le dis parce que... Hein? Comment? Qui a dit ça?
Claude
Haines. C'est Claude Haines qui a dit ça. Hein?
Ça fait rien.
Président, c'est Claude Haines qui a dit ça. C'est pas Jean-Pierre Blanchard. Jean-Pierre Blanchard lui a fait les gros yeux.
De toute façon, il l'a pas dit dans le micro, alors on l'a pas entendu.
Non, parce qu'il... Oui. Alors voilà. Donc, tous les gens bien sont abonnés au Libre Journal. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas abonnés ne sont pas bien, mais ils pourraient être encore mieux en s'abonnant. 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. 600 francs, 500 francs, ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner par mois, vous envoyez 100 francs pendant 6 mois, 50 francs pendant 12 mois, 20 francs, non, 200 francs pendant 3 mois. Enfin, vous faites comme vous voulez. Vous envoyez de l'argent, on vous envoie le journal. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un peu comme l'église, quoi. Enfin, le temple, hein, pasteur.
Oui, oui, mais c'est...
Donnez du fric, on vous donne des sacrements. Enfin, pas chez vous, mais...
Des collectes à 600 francs, c'est intéressant.
Oh bah oui, mais alors vous avez un tout petit temple, hein.
Oui, pas personne.
Ah ben d'accord. Ensuite, je voudrais donc lancer un appel pour mon excellent camarade Ratier, c'est Emmanuel Ratier, qui édite Fais et Documents, et qui publie des livres dont on a souvent parlé dans cette émission. Et Ratier, qui est un malin, qui a l'œil américain, il s'est aperçu qu'il y avait des bénévoles dans la famille. Quand il est venu à Radio Courtoisie, il a vu les masses de bénévoles qui travaillaient à Radio Courtoisie. Puis après, il est venu au Libre Journal, il a dit, il a vu les bénévoles qui travaillaient au Libre Journal. Il ne savait pas que c'était ma femme, forcément. Pas que ma femme, d'ailleurs, mais enfin, essentiellement. Et alors, il m'a dit, est-ce que tu peux pas me trouver, parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il ne vous soit, enfin, je suis son aîné, me demander s'il n'y a pas des bénévoles qui voudraient venir travailler avec moi, parce que je coule. Il a trop de travail, le pauvre. Et moi, ça m'ennuie beaucoup parce que, je veux dire, quand j'ai une question à poser, je téléphone à Ratier et je lui dis, Emmanuel, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Ou j'ai vu ça dans la presse, mais dans quel journal? Et comme c'est le pic de la mirandole du journalisme, il me dit instantanément, oui, c'était avant-hier dans Le Parisien, édition de Paris, ou dans Libération, ou dans même L'Humanité. Il lit même L'Humanité. Mais depuis quelque temps, il a tellement de travail que quand je lui téléphone, il me dit, écoutez, j'ai pas encore lu la presse depuis 3 jours, donc je peux pas vous renseigner. Donc moi, ça me nuit personnellement. Et pour cette raison, je vous demande, si vous avez envie de travailler avec Ratier, qui est un incroyable papivore et un puits de science en ce qui concerne la vie politique française, etc., vous lui envoyez un petit mot, alors à son adresse, qui est Faits et Documents. C'est une adresse postale, hein. Ne vous présentez pas, il y a une boîte à lettres, alors la conversation va pas durer longtemps. Faits et Documents, 37 rue d'Amsterdam, 75 008 Paris. 37 rue d'Amsterdam, 75 008 Paris. Alors si vous savez taper à la machine, classer des papiers, découper des journaux, si vous savez lire par exemple, ça peut l'aider aussi. Voilà. Je suis très très content parce qu'un auditeur m'a envoyé un document qui va me permettre de semer un souk assez rare. Parce que j'accuse carrément, non je ne veux pas accuser parce qu'on n'a pas la peine d'avoir des procès, enfin je fais remarquer quand même que le calendrier diffusé par R1T Europe et Air France est carrément illégal. Carrément illégal. Il est strictement contre les lois actuelles. Pourquoi ? Parce qu'il est intitulé comme ça, 1997, jusqu'à là, il n'y a rien à dire, parce que la plupart des calendriers de cette année sont datés comme ça. Sauf le calendrier maçonnique, qui est 5997. Ils ne sont pas emmerdés. Pour faire chier qu'ils ont ajouté 5000. Enfin, 4000 plus. Donc, 1997. Et c'est intitulé, écoutez bien, Fête légale française et musulmane. Alors, vous ouvrez et vous lisez. Fête légale française. Janvier, jour de l'an grégorien. 1er janvier, 30 mars, Pâques. 31 mars, lundi de Pâques. 1er mai, fête du travail. 8 mai, fête de la victoire. 8 mai, ascension. 18 mai, Pentecôte. 19 mai, lundi de Pentecôte. 14 juillet, fête nationale. 15 août, assomption. 1er novembre, Toussaint. 11 novembre, armistice 1918. 25 décembre, Noël. Je vous fais remarquer que vous n'écoutez pas Radio Courtoisie en vain. Dans mon émission, vous apprenez toujours des choses. Vous voyez, je vais vous donner toutes les fêtes de l'année. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire d'abord que les fêtes juives ne sont pas des fêtes françaises, puisqu'elles ne sont pas notées dans les fêtes françaises. Ça veut dire aussi que les fêtes musulmanes ne sont pas non plus des fêtes françaises, puisque les fêtes musulmanes sont notées à part. 10 janvier, premier jour du ramadan, 8 février, dernier jour du ramadan, 9 février, Aïd el-Fitr, 18 avril, Aïd el-Adha, ou Aïd el-Kébir, comme vous voulez, 8 mai, Moharem, jour de l'an, 1418, ils sont eux. Retard, non ? Ils se sont mis en route bien après nous. Hein. 17 mai, Ashura, fête de l'aumône, et non pas Saint-Ouen l'aumône, comme dirait Samuel Maréchal. 17 juillet, Mouloud, anniversaire de la naissance du prophète. Alors, ce document nous dit qu'il y aurait en France des fêtes françaises et des fêtes musulmanes. Autrement dit, les musulmans ne sont pas français, les français musulmans, on ne sait pas ce qu'ils sont, les juifs qui sont ni français ni musulmans, ils ne sont rien du tout. Je me demande si la direction d'Air France, la direction de la communication d'Air France, n'aurait pas avantage à faire disparaître ce document dans les plus brefs délais, avant que le père Guesso, la LICRA, le MRAP, la GRIF, et toutes ces sortes de choses commencent à leur aboyer aux trousses. Parce que là, il y a beaucoup de fric à perdre dans cette opération. Et pour autant que je sache, c'est pas exactement le remède dont Air France a besoin de ces temps-ci. Voyez ? Donc, messieurs, vous avez fait une grosse bêtise, réparez. Parce que moi, alors j'ajoute naturellement que c'est encore en plus que mettre dans le même calendrier de fêtes françaises des fêtes catholiques comme le lundi de Pâques et des fêtes strictement laïques et même anti-catholiques, on peut dire, comme la fête nationale du 14 juillet, voire la fête du travail. C'est quand même un petit peu abusif, vous voyez. Donc tout ça, ça a été fait soit par un imbécile, soit par un maladroit, soit par un imbécile maladroit. Puis, Air France n'est pas totalement exclu quand même. Voilà.
Et toutes ces fêtes-là sont des fêtes chômées, en somme. C'est leur point commun.
Non, non, pas toutes, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout, parce que je peux vous dire que...
Lucie, tout ça, hein, c'est les jours...
Le 10 janvier, j'ai travaillé, moi.
C'est la question que je me posais, moi, pour les fêtes musulmanes. Ben non, parce que dans les écoles, les enfants musulmans, ils ont les fêtes carillonnées françaises.
Oui, mais alors, attends.
Mais ils ont en plus des fêtes à eux.
Mais bien sûr.
Ils sont pas obligés d'aller à l'école.
C'est très bien.
Il faudrait que ce soit maintenant. Allez.
Vieux débat. Si on fait les fêtes catholiques, les fêtes musulmanes, les fêtes juives, les fêtes bouddhistes, les fêtes laïques, les fêtes sortir immédiatement ceux qui restent, etc. Vous allez entrer avec des années de deux jours de travail.
C'est intéressant.
Et encore, il y en a qui vont tomber malades.
Je pense à mes jeunes collègues.
Voilà. On pourrait parler aussi du 19 mai, qui est la fête de Saint-Yves. Fête nationale bretonne.
Monsieur, on vous...
Pardon, monsieur Pligny, excusez-moi d'avoir ajouté l'opprobre à l'insulte.
Monsieur, on vous reproche de ne pas avoir un accent breton assez prononcé. C'est un auditeur.
Il peut peut-être faire un effort.
Peut-être reprendre votre accent breton. Hein.
Faire un effort gore. Alors, à propos du... J'ai parlé d'un tract de Aide la semaine dernière, je ne vais pas y revenir parce qu'on est entre amis, mais une auditrice m'avait téléphoné en me disant que le 30 novembre 96, dans l'église du Cap Saint-Jacques, dans les Yvelines, hein, pas sur la côte d'Azur, les aumôneries des établissements scolaires de Saint-Quentin en Yvelines avaient organisé un forum des jeunes. Parmi les stands des diverses associations se trouvait celui du doc de Fun Radio qui distribuait ce genre de tracts et des préservatifs, bien entendu. Alors, j'ai pas l'habitude de faire de la publicité aux autres radios, mais si vraiment il vous arrive d'écouter, de zapper sur la bande FM, ce que je fais en ce moment parce que j'ai pas de télévision, je vous recommande Fun Radio. Là, vous allez voir quand même ce qu'on est capable de faire avec un micro. Et encore, je ne dis que ce que j'entends. C'est quelque chose. Alors, naturellement, quand on voit, vous comprenez, c'est les mêmes curetons. Les aumôneries des établissements scolaires qui se déplacent, comme on va en parler tout à l'heure avec Serge Martinez, pour présenter des témoignages en faveur des communistes contre les gens du Front National et qui disent aux gens du Front National n'a pas le même Dieu. Et c'est les mêmes qui organisent des expositions pour distribuer des préservatifs. Alors, parents d'élèves qui envoyaient vos enfants dans les aumôneries des établissements scolaires de Saint-Quentin en Yvelines. Il faut quand même que vous sachiez que quand vous confiez vos enfants au curton conciliaire de Saint-Quentin, ils les emmènent pour leur faire distribuer des préservatifs par le pornocrate de Fun Radio. C'est quand même assez limite. Moi, si je mettais mes enfants chez ces curtons-là, je crois que j'irais leur botter le fion, tout curé qu'ils sont, vous voyez. C'est pour ça que j'ai jamais mis mes enfants là-dedans. Mes enfants, ils étaient chez Argouache, et je doute fort que le père Argouache aurait supporté qu'on distribue des préservatifs à ses gamins. Je pense que ça serait terminé par une distribution de taloches qui aurait fait date dans l'histoire de l'Église de France, vous voyez. Un auditeur m'écrit, je suis membre d'une association internationale dont le but est de venir en aide aux déshérités. À ce titre, au cours d'une réunion et après un vote, il a été décidé à l'unanimité de faire un don de 100 000 francs à Aide, qui fait partie des déshérités, probablement. Forcément, moi je comprends que les parents les déshéritent dans ce cas-là. Ces fonds proviennent d'actions bénévoles, brocantes, quêtes, etc., dues à l'effort de chacun d'entre nous. D'après votre exposé, il semblerait que notre bonne foi ait été surprise, dit ce monsieur, qui est un virtuose de l'understatement, hein, ce qui en est aussi l'euphémisme. Oui, monsieur, votre bonne foi a été surprise, et votre fric aussi, d'ailleurs. Monsieur Van Covenberg me demande de rectifier. J'ai dit la semaine dernière que le chant des adieux était un chant maçonnique. Il me dit, ce n'est pas un chant maçonnique, c'est le père Sévin qui a repris ce chant d'un chant à boire écossais, Auld Lang Syne, du poète écossais Robert Burns, Évidemment, le père Servin, comme franc-maçon, on a déjà fait mieux. Hein. Il n'est pas. Mais, cela dit, André von Kronberg ajoute, effectivement, Burns était franc-maçon. C'est tout le problème. Voilà, c'est tout. Oui, une information qui circule en ce moment et que je dois démentir parce que je l'ai vérifiée. La rumeur court un peu partout que la boulangère de Reims, vous savez, c'est cette boulangère qui avait tué un jeune qui était venu lui piquer des croissants et elle avait trouvé que quand même ça commençait à durer un petit peu. Donc, elle a été passée en justice, etc., etc., etc. Et puis, elle avait fini par... en quelque sorte disparaître, c'est-à-dire changer de province, elle n'était plus à Reims. Et on dit qu'elle, dans la province, que je n'indiquerai même pas où elle s'était réfugiée, elle a été retrouvée égorgée. Alors je vous le dis, j'ai vérifié, c'est pas vrai. J'ai eu Maître Garot, qui était son avocat, qui m'a dit ça s'est peut-être passé dans les 15 jours, parce que je ne l'ai pas eu au téléphone depuis 15 jours, mais je pense quand même qu'on m'aurait prévenu. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse nouvelle. Et un auditeur m'a dit « Pourquoi continuez-vous à dire du mal de la franc-maçonnerie alors que vous accueillez M. Bonal dans votre journal dont tous les écrits sont pro ou crypto-maçonniques ?» Alors ça, c'est un vieux débat sur lequel je ne veux pas revenir parce que d'abord, Bonal est à peu près aussi franc-maçon que moi. Même moins d'ailleurs. Mais en fait, beaucoup moins. Et mais il les déteste autant que moi. Et il ne faut pas confondre autour et alentour, il ne faut pas confondre l'occultisme et l'ésotérisme. Il ne faut pas confondre la cabale maçonnique et la méditation sur les écritures et sur les textes et sur les symbolismes. Ça n'a rien à voir. Voilà. J'ai dit, vénérable maître, vos grades et qualités. Il est minuit plein et nos travaux sont finis. Vous pouvez disposer. Non, pardon. Alors, Serge Martinez. On va pas faire semblant de se tutoyer parce que je sais plus, je finis par plus savoir, mais on va faire comme si on était de vieux amis.
Allez, vas-y.
Et.
Ça n'est pas tout à fait vrai, ça ne fait que 5 ou 6 ans.
6 ans. Oui, ouais, mais enfin, je t'ai tellement vu au cours de ces 6 années que je t'ai vu plus que les gens que je connais depuis 30 ans.
Et je peux dire, chers amis, ça esquinte. Hein. Ça esquinte. Vous qui n'avez pas l'image, mais moi, j'ai Serge Becquet en face de moi, je peux vous dire ça esquinte. Ouais.
C'est bien. Quand on a des amis comme ça, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis. Alors, non, je t'ai demandé de venir parce que tu es en train de vivre à Nîmes une aventure qui est passionnante. On regrette toujours, quand on reçoit les élus du front aujourd'hui, les élus municipaux du front, je veux dire, le chevalier Bompard ou ça y est, le trou qui tue.
Simon Pierre.
Merci. Oh, quelle horreur. Simon Pierre. Merci, Caroline. Hein.
Non, mais nous faisions exprès.
Alors, donc, on regrette de ne pas les avoir reçus avant pour qu'ils nous racontent leurs aventures de préélection. Et c'est pour ça que je ne voulais pas rater cette occasion, parce que tu mènes à Nîmes, où tu es déjà élu municipal et où tu seras prochainement, si Dieu le veut, je ne vois pas pourquoi il s'y opposerait, puisqu'il n'a pas de raison apparente de le faire.
Il faudra mettre au point, se mettre d'accord sur ce terme-là, parce qu'il faudra savoir de quel lieu il s'agit. On va en parler, c'est le cœur du débat, là.
Donc, où tu seras un jour maire et député. Enfin, j'espère que tu laisseras une des deux places à un copain.
Si je dis Inch'Allah, il n'y aura pas de débat. Hein. D'accord.
Alors, tu es en train de mener une espèce de... Enfin, un combat qui est intéressant, parce que c'est un combat local, mais pas facile, et qui est fortement médiatisé. Alors, comment ça se passe quand on est dans une ville comme Nîmes, qui est quand même une ville relativement, enfin d'apparence, on imagine une petite ville de province calme, un petit peu bourgeoise, quand on voit arriver, tu me passeras l'expression, une grande gueule du Front National, c'est-à-dire quelqu'un qui joue pas le jeu du consensus politique, comment ça se passe?
Je vais dire beaucoup de bêtises. Je vais commencer par faire un retour en arrière. J'allais dire un flashback, ça aurait été ma première bêtise. En tant que qu'ancien responsable de la Fédération de Paris, trois années passionnantes, j'ai fait mes classes dans la capitale et appris quelles étaient les difficultés à faire passer un message. Paris est une ville très difficile, passionnante, mais très difficile, car on ne connaît pas son voisin, on se moque de ce que dit le voisin ou la personne qui est en face de soi, on n'y regarde pas. Donc le combat est dur parce que on distribue des tracts, on affiche, on fait des manifestations, on essaye de communiquer, et on est face à un public peu réceptif. totalement indifférent, c'est, je crois, le propre des Parisiens. Et on débarque comme ça en province. Alors, on se fait traiter, c'est la pire insulte, et c'était juste avant les élections municipales, de parachuter. Alors là, je dois dire que ça fait mal, hein. On m'a pas traité de facho, de ceci, cela, enfin, de toutes ces bassesses. Non, parachuter. Ça fait très mal, ça coûte 5 points en élection. Parce que on aime bien être entre nous et qu'on n'aime pas tellement les Parisiens qui débarquent. Bon, j'avais l'avantage d'être pied noir et donc d'être à la fois parachuté partout en France et donc chez moi partout, qui plus est à Nîmes où la communauté pied noir est forte. Donc, les premiers temps, j'ai eu dû à me défendre de ce genre d'accusations, proférées d'ailleurs par des gens qui par ailleurs sont tout à fait pour l'immigration, hein, oui, c'est quand même clair, hein. Alors, on n'est pas parachuté quand on s'appelle, enfin je ne citerai pas de nom, mais quand on est pied noir, on est parachuté. Et Le Pen avait d'ailleurs connu les mêmes avatars en allant à Nice, où il était, lui, breton parachuté, alors que les autres ne le sont pas. Mais bref. Et puis le temps passe, et on se rend compte de choses assez extraordinaires et prenantes, dangereuses d'ailleurs, car elles peuvent tourner la tête de ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. On est reconnu, on est vite connu, tout se sait. Les efforts payent, parce que dans ces petites villes, on s'intéresse à ce qui se passe. On s'intéresse à ce que dit l'autre. Un mot, une parole, une action sont vite un événement. Un visage est reconnu parce qu'il est regardé, ce qui n'est pas le cas à Paris, et on devient vite quelqu'un qui compte. Et pour un militant politique, c'est très appréciable, puisque ça permet de mesurer le fruit du travail effectué. Il faut prendre garde de ne pas croire que, étant reconnu, on est forcément aimé et forcément suivi. Il y a de grandes différences. Et c'est ce qui, quelquefois, trouble l'esprit de certains de mon prédécesseur à Nîmes, que je ne citerai pas, je ne lui ferai pas cet honneur, mais qui, parce qu'un jour, en élection partielle, en législative partielle, avait fait 39% tête de liste Front National, s'est dit, je fais 39%, et à partir de là, il pensait qu'il pourrait faire 40 en ajoutant d'autres voix, etc.
Comment ça déjà,
et tout seul, il a fait 1,5 lorsqu'il s'est libéré du sigle qui avait fait sa fortune électorale. Donc, il faut garder tête froide, mais la chose est passionnante. Elle est passionnante donc, parce que on peut communiquer, c'est merveilleux. On se rend compte aussi qu'en ayant des relations normales avec le journal local, le Midi Libre pour ne pas le citer, eh bien, on arrive à faire passer certaines choses. Alors, bien sûr, ils ne disent pas ce que nous souhaitons, mais c'est normal. On doit admettre ça comme un fait ordinaire. Simplement, ils parlent de l'actualité, et faisant partie de l'actualité, ils parlent de nous. C'est intéressant. Troisième chose, on se rend compte que le personnel politique n'est pas de très bon niveau, localement. Alors, c'est là que je commence à dire des bêtises, et je vais forcément faire bondir certains de nos auditeurs.
Oui, mais tu as une explication intéressante.
Elle est évidente. Si nous analysons la composition du Parlement français, nous nous rendons compte que l'extraordinaire majorité, pas l'intégralité, mais presque, des élus sont des hauts fonctionnaires. Il en est de même pour les ministres, etc.
Parce qu'il n'y a que qui ont le temps de faire ça, les autres, ils sont obligés.
Voilà. Faire de la politique est un métier prenant, passionnant, un métier, quand je parle de métier en tant que savoir-faire, pas forcément en tant que rémunération, bien sûr, hein. Et il faut s'y consacrer vraiment, avoir certains talents, de l'énergie, etc. Les gens qui sont soit employés, soit petits artisans, commerçants, n'ont pas, même s'ils ont autant de talents, n'ont pas la capacité, la possibilité, je veux dire, de se libérer assez pour être vraiment sur le terrain. Et cette chose-là élimine de la compétition beaucoup de gens de bonne volonté pour donner une prime, en quelque sorte, aux fonctionnaires. Seulement, ces hauts fonctionnaires de talent, quelquefois, et de qualité, eh bien, naturellement, de par leur fonction, sont dans les grandes villes, voire dans la capitale, et restent dans les petites villes, les petits fonctionnaires. Et forcément, ces fonctionnaires sont certainement très respectables, mais on a affaire à des... Et sans qu'il y ait de considération péjorative, mais c'est un autre niveau. Un grand énarque, un grand polytechnicien n'a pas le même niveau qu'un petit instituteur d'école primaire. Le petit instituteur. Le petit instituteur.
Ils sont plutôt mieux, les instituteurs.
Oui, quelquefois. Quelquefois, non. Il y a de tout. Mais garde encore sa candeur, garde encore sa naïveté, garde encore, et c'est peut-être du point de vue moral bien, bien mieux, garde encore son inexpérience. Et par conséquent, quand il est dans le marigot, se fait dévorer.
Oui, parce qu'il y a des crocodiles.
Parce qu'il y a des crocodiles. Voilà. Alors qu'à Paris, il n'y a plus que de crocodiles, tous les autres ont été dévorés avant d'arriver là.
Il y a longtemps qu'ils ne se bougent plus entre eux.
Et voilà. Oui, parce qu'en plus, ils sont complices. Donc, on a un autre climat. J'ai fait mon apprentissage, quand je siégeais dans le 15e arrondissement, Balladur y siégeait. Quand je siégeais au conseil régional, Pasqua y siégeait, et d'autres de ce niveau-là. Et quand on est à Nîmes, les grands crocodiles nîmois sont montés à Paris. Et ils ont changé de marigot, et il reste des tout petits crocodiles. Que dans un petit éditorial, j'appelais les tétards. Parce que...
Oui, alors là, il faudra quand même que tu te fasses une petite réadaptation en matière de sciences naturelles.
C'est vrai, mais c'est pas des lézards non plus, tu vois, il n'y a pas. D'accord, non. Bon. Et donc, on arrive à se faire entendre et on arrive à dominer le débat assez rapidement, c'est passionnant, et le Midi Libre qui forcément traduit l'actualité, retranscrit l'actualité, parle du Front National, c'est-à-dire de nous, et en face du Parti communiste qui est à la tête de la mairie de Nîmes, bien qu'il ne fasse que 15% aux élections.
Ouais. Alors ça, pour toi, c'est du gâteau, parce que tu as en face de toi des vieux crocodiles, alors c'est le cas de le dire, crocodiles staliniens.
C'est
quand même assez rigolo.
C'est très amusant. C'est passionnant, et des crocodiles très maladroits, parce qu'ils n'étaient même pas équipés ni prêts à prendre la mairie, puisque faisant 11% aux élections, ils n'ont jamais soupçonné qu'ils seraient maires, et ils se sont battus.
Ils ne pouvaient pas croire que la droite serait sordide à ce point.
Bête au point qu'avec 65%, elle leur donne la municipalité, ce qui s'est passé. Donc, ils ont été éberlués, étonnés, ils ont mis des mois et des mois avant de se préparer, d'avoir les équipes et les compétences nécessaires à gérer une ville comme celle-là. Et ça les a amenés à faire beaucoup de bêtises dont nous avons profité, ce qui nous permet de nous amuser beaucoup, beaucoup, et de faire grimper à la fois notre image, nos adhérents. Dire que la fédération du Gard, en un an et quelques, a plus que doublé. C'est plus de 100% d'adhérents. Hein. Mais beaucoup... ça nous permet aussi de faire disparaître l'autre droite du débat.
Comme l'adhésion à Radio Courtoisie.
Voilà, peut-être. Alors le RPR, l'UPF, ceci, on n'entend plus parler. Ils sont déroutés. Et à double titre, d'abord parce que ils ne savent pas comment entrer dans le débat. Et puis parce que dès qu'ils essaient d'entrer dans leur débat, aussi bien nous que les communistes leur rappellent leur carence précédente, c'est-à-dire l'état dans lequel ils ont mis la ville de Nîmes, et puis aussi en ce qui nous concerne le fait que nous n'avons quand même pas se plaindre de voir des communistes au pouvoir, puisque c'est eux qui leur ont donné la mairie. Alors bon, quand on donne la mairie à quelqu'un, on ne va pas regretter après qu'il l'ait. Donc tout ça les a paralysés depuis deux ans.
Bousquet est en prison là ou...
Il a fait appel. Je crois que, date symbolique, j'ai appris que c'était le 13 mai. Et que la cour d'appel rendrait son arrêt. On va voir. 13 mai, pour moi, c'est une date bizarre.
Récemment, il y a eu un procès entre.
J'ai quatre procès, j'ai un
que tu entends, toi. Hein.
Oui, absolument.
Faut le préciser parce que c'est tellement rare chez nous que.
Ah, oui. Si, il y en a plusieurs, mais celui-là est le plus intéressant. Alors, je vais vous citer les faits. C'était en octobre 95. Dans leur maladresse, donc, les communistes ont dit, nous sommes des démocrates, alors, communistes tout à fait staliniens, mais qui essayent d'avoir un gant de velours, parler de démocratie, de participation, de démocratie citoyenne, enfin, tout ce jargon. Et donc, dans le journal La Ville, journal publié par la mairie et payé par les Nîmois, bien entendu, ils ont décidé d'offrir une page aux oppositions. Bon, l'une d'elles n'a jamais répondu, et puis nous y sommes régulièrement, et ils emploient ce petit stratagème traditionnel. Le journal étant mensuel, ils attendent la veille du journal, du bouclage pour nous dire c'est pour demain.
Bon, colossal
de finesse. C'est mignon, c'est bon. Alors, nous répondrons dans les temps et nous paraissons. Et ce jour-là, un fait divers était paru dans le Midi Libre, Bible locale, je le rappelle. Et le fait divers, je vais vous le résumer, mais il était important en dimension, en taille. Je le résume, à Beaucaire, ville proche de Nîmes, donc, et dans le Gard aussi, deux immigrés sont interpellés. Ils présentent de fausses identités, la police perquisitionne leur squat et y découvre 160 grammes d'explosifs et une arme de sixième catégorie. Ceci pendant le plan Vigipirate de l'année précédente. Ils sont questionnés par le commissariat et sont libérés 4 heures après avoir été interceptés. Libérés, point. Alors, fausse identité, immigrés en situation régulière, etc. Ils sont perdus, on ne les retrouvera jamais.
Qu'est-ce qu'il y a de mal?
C'est évident. Alors, je cite, j'extrais donc la quintessence de cet article du Midi Libre en citant le fait réel divers et un commentaire simplement après, ironique, disant, concitoyens ni moi, ordinaires, vous qui avez mal garé votre voiture, vous qui avez, à tort, été contrôlé avec 0,6 grammes, vous qui avez commis une erreur dans votre comptabilité, qui êtes assailli par l'administration fiscale, etc., etc., ne soyez pas trop aigris, le fisc, l'État ne peut pas être partout où il travaille. Quant à nous, et puis un petit rappel de notre programme, nous serons pour terroriser les malfrats, et bon, bref. La municipalité, néophyte, comme je parlais d'immigrés en situation irrégulière, dit ça, ça ne peut pas, c'est le Front National, c'est grave. Donc, au lieu de faire paraître mon article, fait paraître à la place un texte en disant l'intégralité de la majorité municipale a décidé de ne pas faire paraître l'article de la liste du Front National qui contient un appel à la haine raciale, qui contient une mise en cause des autorités judiciaires, etc., qui contient un appel à la... Je vais citer une excitation à la discrimination raciale, une mise en cause directe des services de police, un appel à la haine et à l'affrontement civil, ni plus ni moins.
C'est fabuleux de la part des communistes, quand même.
Absolument. Donc, immédiatement, je porte plainte pour diffamation. Et cette plainte aboutit devant le tribunal correctionnel pour être jugée le 16 de ce mois-ci, le 16 janvier. Voilà l'affaire, voilà la genèse de cette affaire. Alors, chose intéressante, c'est que à partir du 9 janvier, un comité de lutte contre l'extrême droite se crée à Nîmes, et que dans ce comité figurent les traditionnels groupuscules et autres, tels que la CGT, non, CGT pas groupuscule quand même, mais oui, si, je vais le dire, ça me fait plaisir, CGT, les Verts, Mouvement écologiste indépendant, FSU, LCR, Ligue communiste, etc., etc., et entre le PC, le MRAP et le syndicat de la magistrature, qui par conséquent, le 9 janvier, alors que le procès va arriver le 16, cherche à influencer les magistrats, à propos d'un procès qui va se dérouler quelques jours après. Ils appellent à manifestation le jour du procès devant le tribunal. Et le jour du procès, effectivement, de procès, et j'avais appelé d'ailleurs Marine, qui est une amie, à me défendre, mais à me représenter, la majorité municipale se trouve, pour soutenir le directeur de la publication du journal, se trouve dans le box. Je leur ai fait perdre, c'était déjà une franche rigolade et une petite victoire, toute la matinée, hein. Et le comité réunit donc, le comité anti-Front National réunit ses membres, qui, et le Midi Libre publie une photo qui est très très amusante, parce qu'on voit le palais de justice, la grande pancarte, et puis comme la pancarte est assez grande, ils ont été obligés de prendre un grand angle, c'est-à-dire d'ouvrir beaucoup l'image, ce qui permet de voir qu'ils sont 8, ces anti-Front National, dans leur grande manifestation.
Enfin, comme je te disais, c'est quand même le double de ce qu'ils étaient à Strasbourg.
C'est vrai.
Strasbourg, manif anti-Front, ils étaient 4.
Mais avec toujours des représentants du syndicat de la magistrature. Et ils distribuent un tract signé syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que la magistrature prend part, essaye d'influencer un procès qui est en train de se dérouler en manifestant devant le tribunal.
Est-ce qu'à espérer que le président du tribunal soit pas membre du syndicat de la
magistrature? Oh non, mais j'ai demandé par l'intermédiaire. en tout cas, le garde des Sceaux va être saisi de ce genre de procédé qui est tout à fait anormal. Ce qui fait qu'effectivement, bien entendu, le parquet, le procureur, prend immédiatement parti pour la municipalité qui, bien entendu, ne peut pas être... Je vais d'ailleurs donner à Caroline Parmentier les termes, parce que pour peu que... On ne sait jamais, je ne demandais qu'un franc, hein, donc perdu ou gagné, c'est pas important, c'était l'honneur, hein, et puis c'était le plaisir de remuer tout ça, mais qui considère que finalement, dans la polémique politique, traiter ses adversaires de... dire que ses adversaires sont des œuvres racistes, provocation à la haine raciale, etc., ben c'est pas grave, c'est normal. Alors, si le tribunal dit ça... Nous pourrons donc le faire sans problème, oui, puisque ce n'est pas diffamatoire.
Il faut dire que jusqu'à présent, on se gênait.
Voilà. Alors ça, c'est la première chose intéressante. Et bien entendu, les communistes, pour témoigner de leur bonne moralité, font appel à des témoins. Alors bon, je passe sur le témoin de la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle bien Pierre Rosenfeld, qui vient témoigner que, bien sûr, les communistes sont des gens charmants. Et que nous, Front National, Serge Martinez et Max Janin, mon adjoint au conseil municipal, les deux élus, sommes des horribles zozos. Et ceci étant, nous n'avions jamais vu ce monsieur, il ne nous connaissait pas, et par conséquent, il nous jugeait sans avoir, ne serait-ce qu'un seul instant, discuté avec nous. Bon, ça n'est pas grave, mais, grande surprise, arrive...
Alors ça, écoutez bien, parce que c'est quand même assez joli, ça.
Un abbé, l'abbé Durtest, qui dit... qu'il arrive et avec mandat de l'évêque de Nîmes, et qui, lui aussi, fait l'éloge des qualités extraordinaires des communistes, et qui témoigne contre nous, ne nous ayant pas jamais rencontrés non plus. Alors, je demande à Marine Le Pen d'interpeller cet abbé pour lui demander comment il pouvait se permettre de juger Serge Martinez et Max Janin.
Jugement téméraire.
C'est ne les ayant jamais rencontrés.
Faute grave.
Ça trouble à ce point d'ailleurs le président du tribunal. Le président du tribunal dit à ce moment-là, en interpellant cet abbé, pourriez-vous débattre avec un des membres du Front National ici présent? Et la réponse est intéressante. Elle vient directement du père de l'abbé Durtest, pardon. S'il me le demande, certainement. Mais je crains que l'on arrive vite à un blocage. Accrochez-vous, leur Dieu n'est pas le même que le mien.
Voilà. Alors, donc, pasteur Blanchard, là, vous avez quand même bon argument, parce que, voilà, il y a un curé catholique, enfin, catholique, je suppose qu'il est estampillé catho, puisqu'il est envoyé par l'évêque, qui dit qu'il y a plusieurs dieux. Donc, il y a le sien, puis il y a celui du Front National, il y a celui des Juifs, il y a celui des musulmans, il y a plusieurs dieux. En fait, je voudrais pas, susciter un débat théologique, mais c'est quand même intéressant.
C'est intéressant, parce que moi-même, j'arrive, ce matin, j'étais à Vitrolles encore, et j'étais à Vitrolles pour une raison bien précise, c'est que mardi soir, il y avait une grande réunion à Vitrolles avec le curé, le pasteur, le représentant de la communauté islamique et le représentant de la communauté juive. Et cette réunion, bien sûr, n'était pas politique, mais elle était contre ceux qui prêchent l'inégalité des races.
Alors, arrivé à un tel point de délire qu'il y avait dans Le Monde une page entière du Monde, avec une illustration qui faisait à peu près, un tiers de la page, qui montrait un dessin allégorique, d'ailleurs torché par un pied gauche, hein, visiblement. C'était des chemins à travers la jungle, savane, ouais, qui allaient vers un soleil couchant, ou levant, on ne saura jamais, ça, ouais, effectivement. Et il y avait un chemin pour les juifs, un chemin pour les musulmans, un chemin pour les catholiques,
un chemin pour les protestants, et le titre, une réunion de prière pour Vitrolles.
Prière pour
Vitrolles contre la montée.
Pour que même les francs-max, socialos, laïcards du monde se mettent à appeler au secours. Alors, les juifs, les protestants, les musulmans et les cathos, il faut qu'ils aient les miquettes, les mecs. Hein. J'ai pas d'autre souvenir de ça que la célébration d'une grande messe à Notre-Dame. Je crois que c'était pendant la guerre. Est-ce que c'était en 40 pendant la guerre de 14
En tout cas, il y a un précédent. Je crois qu'ils s'en sont servis. C'est la fameuse. D'ailleurs, le président en a parlé, Serge, à ses vœux, la fameuse réunion de prière qui avait lieu en Alsace après les élections présidentielles et le score fleuve qu'avait fait le président. Il y avait une réunion de prière contre la montée du Front National. Alors, je suis allé soutenir Catherine et Bruno Maigret. Dire que c'est un scandale.
Sont pour l'avortement, ils participent à l'assassinat de 250 000 bébés par an.
Mais Serge...
Et ils font des réunions de prière pour empêcher un parti démocratique, hélas, d'arriver au pouvoir. Mais c'est vraiment des fous.
Non, mais ce qui est extraordinaire, Serge, dans tout ça, c'est qu'ils soutiennent Anglade, le maire qui va être mis en procès à cause des malversations. Et donc, on pensait dans un premier temps aller porter gentiment la contradiction. Et je suis content que Caroline soit là, parce que quelque part, humblement, au-delà de nos différences, on parlait des fêtes chrétiennes tout à l'heure, le lundi de Pâques, c'est une fête chrétienne, et nous la fêtons aussi. J'étais un peu le porte-parole de tous les chrétiens par rapport à cette immonde réunion, cette confusion du spirituel et du temporel. Et il s'est arrangé pour pas qu'on intervienne, bien sûr, à la réunion au temple protestant. Je vous signale, ça m'a été confirmé par Damien Barillet, que le dimanche d'avant, devant toutes les églises et les temples des Bouches-du-Rhône, ils ont donné des tracts pour cette réunion, pour Vitrolles, contre le Front National. Et donc, on a fait une action caritative pour les pauvres de Vitrolles, avec Madame Dornano, Madame Maigret, et on avait mis des aliments devant la permanence du Front National, et on a montré que le Front National, je l'ai dit dans la conférence de presse, nous, c'était pas des mots, puisque la veille, j'avais distribué 250 repas devant Saint-Lazare, c'était des actes, et ce soir-là, on donnait aux pauvres Français qui étaient dans le besoin. Mais c'est quand même fou, pour des raisons politiques, pour que Monsieur Bruno Maigret ne passe pas aux élections.
Madame
Catherine Maigret, qu'on soutienne un maire qui est...
un peu macho, le pasteur, j'ai l'impression. Hein.
Non, mais je connais mieux Bruno Maigret que Madame Maigret. Il est plus souvent au paquebot et Madame Maigret, je la connais très peu. Et qu'on soutienne un maire qui est quand même un maire qui va être mis en examen prochainement.
Hein,
et que ce soit les curés qui, et les pasteurs qui appellent à ça.
Donc, ils sont bien.
Donc, comme vous,
pas tous, hein, mais il y en a quand même quelques-uns qui...
On est tout à fait en phase, et pour répondre à la question, moi je dirais que Dieu... Je crois que le Dieu qu'ils ont, là, c'est le Dieu de ce monde. C'est pas le Dieu qui est enseignant les Écritures.
Dieu qui reconnaîtra les...
Un abbé mandaté par l'évêque, c'est quand même fort. Enfin, je dois remercier le Midi Libre qui a publié le défi que j'ai lancé à cet abbé d'Urtest, c'est difficile à dire.
Oui,
c'est vrai, tête dure, en fait, hein. Ouais, c'est ça, je lui ai lancé un défi, je lui ai proposé un débat public. Puisqu'il l'avait dit qu'il est pour...
Si on m'avait dit un jour que Martinez aura un débat public avec un curé, je me serais quand même...
Ah ben avec celui-là, oui.
Mais Serge, j'étais à Vitrolles, si je peux venir à Nîmes, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis à ta disposition.
Avec plaisir.
Caroline, vous êtes allée à Nîmes?
Non.
Jamais?
Pas récemment.
Je crois qu'elle me hait.
Oui, je crois aussi.
Non, mais bien sûr, on va prévoir d'aller à Nîmes.
Elle l'avoue en plus, ça.
Non, mais même pour un repas de présent, un banquet de présent, enfin, pas, comment vous appelez ça, les banquets?
Oui, non, dîner, déjeuner, rencontre.
Non, déjeuner, rencontre.
Pas récemment. La dernière fois que j'étais à Nîmes, c'était, il me semble, on s'était arrêté sur la route pour aller au congrès du Front National, qui était il y a très longtemps. C'était au moment de la campagne à l'américaine de Jean-Marie Le Pen, là, en 88. Donc, ça remonte pas à hier.
C'était déjeuner, vous, en 88?
Je vais souvent dans le midi, mais bien sûr, là, c'est une occasion d'y aller et je vais m'y précipiter.
Merci.
Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Journaliste, qui est un livre de mémoire pour une jeune fille de 30 ans, c'est ça, hein? On a le droit encore de dire là, je sais plus, je dis 30 ans, c'est peut-être
oui,
pas 30 ans.
Surtout que c'est 31.
Ah bon, ça va, ouf. Ça aurait été 29, j'étais mal. pour une jeune fille de 30 ans, c'est quand même un petit peu...
Mais quand j'avais 28 et 29 ans, on me disait, puisque tu as 30 ans, alors j'espère qu'au moins jusqu'à mes 35 ans, on me dira, puisque tu as 30 ans.
D'ailleurs, je crois, c'est ce que Thierry le disait. C'est les dix, non, c'est
les 10 meilleures années d'une femme, c'est entre 28 et 30 ans.
Voilà, c'est ça, oui, je crois que c'est ça, oui.
C'est Serge Peignet qui a rappelé cette phrase immortelle de cet autre immortel qui était Guitry. Et donc, au bout de 9 ans de journalisme, vous faites carrément un livre de mémoire.
Oui, c'est pas exactement un livre de mémoire, c'est un récit, oui, parce qu'il fallait que j'aie une trame, j'ai choisi le récit, et puis parce que ça m'était plus facile. Non, c'est à la fois un cri du cœur, j'avais envie de dire ce que je faisais, on me pose souvent des questions, journaliste où, journaliste chez qui, journaliste pourquoi, et finalement il y a trois métiers, je crois, aujourd'hui en France, qui soulèvent un tollé ou qui font blémir.
Journaliste, député et prostituée.
Je pensais inspecteur des impôts, flic et journaliste à présent, voilà, en gros.
Ah oui, d'accord. Non, parce que en termes de popularité, c'est vrai que les trois derniers métiers l'ordre de la popularité des professions...
C'est pas popularité, c'est d'appréciation, je crois.
Oui, c'est ça, d'appréciation, voilà. C'est journaliste, député et prostituée.
Mais les prostituées passent avant.
Bien sûr, ben c'est la moindre des choses.
Il y a certains journalistes qui les valent pas, parce que hier matin à Vitrolles, quand on a fait le marché avec Catherine et Bruno Maigret, les journalistes de LCI sont chargés d'amener Alphon devant le stand du Front National en essayant de provoquer une escandre. Ah, c'est eux-mêmes qui sont allés chercher, les caméramans. Vous voyez un petit peu la mentalité. Hein.
Là, je me sens très très mal parce que Mgr Vac qui vient de faire son entrée dans le studio technique, et quand il va me voir à côté d'un pasteur, je n'ai pas fini d'en entendre parler. J'espérais que ça serait discret, mais là, on est cuit, là. Hein, mon cher Jean-Pierre, il va falloir qu'on trouve un moyen de se fâcher tous les deux.
Je vais faire court, alors.
Caroline, alors...
Non, à la fois un cri du cœur et à la fois le récit de mon procès, puisque 9 ans pendant lesquels j'ai eu plus de 2 ans et demi de procès. Voilà, et j'avais envie de raconter pourquoi on m'avait poursuivi, pourquoi on m'avait condamné, et en m'interdisant en plus de faire la preuve.
Franchement, ça vous a gêné d'être condamné par ces tribunaux-là pour les motifs pour lesquels vous avez été condamné?
Gêné, non, c'est pas du tout le mot. Ça m'a marqué, je dirais. Ça m'a fait grandir aussi. Ça m'a appris ce que je savais déjà, mais je l'ai vécu.
Qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents quand ils ont appris que leur fille était une reprise de justice?
Mais mes parents ont eu une très bonne réaction.
Reprise de justice,
oui. Mes parents ont eu une très bonne réaction parce que mes parents sont des gens généreux et enthousiastes. Ils croient de tout leur cœur à ce que je fais. Ils croient à l'utilité et à l'urgence du combat de présent. Et quand j'ai été condamnée, ils ne m'ont pas dit les questions que j'avais pas envie d'entendre à ce moment-là. Ils m'ont pas dit, tu te rends compte, un procès, qu'est-ce que vont dire tes cousins,
fille
ta famille,
indigne.
Le nom de Parmentier traîné devant les tribunaux, etc. Ils m'ont pas dit ça du tout.
On va passer pour des patates, bien entendu.
Je sais qu'ils en ont souffert. Moi, je vois encore mon père qui était là le jour de l'audience. En première instance, il était très blanc. Il a écouté. C'est pas toujours très agréable. Maître Zaoui et Maître Lorac ont pas mal bavassé.
Ça, si on veut rigoler, il y a quand même d'autres moyens de se marrer.
On pas mal
d'écouter Zaoui et Lorac.
Ont beaucoup bavassé sur moi en termes assez pénibles. Et c'est vrai, je le vois encore prenant sa tête à deux mains. Mais il était là et il m'a soutenu vraiment de toutes ses forces.
C'est qu'il n'ait pas pris les deux têtes à une main de Zaoui et Lorac parce qu'ils auraient probablement passé un sale quart d'heure. La question va être posée, alors je vous la pose tout de suite. Répondez. Est-ce que vous êtes parente avec l'inventeur de la pomme de terre?
Oui, je le suis. C'est un arrière-arrière grand-oncle. Parmentier n'a pas eu d'enfant, mais nous descendons de son frère aîné. Et donc mon père est un des descendants les plus proches de Parmentier. Nous avons chez nous sa sacoche, ses lunettes, son bureau, ainsi que toute une collection d'ouvrages sur les mariages d'hybrides de maïs et d'hybrides de pommes de terre, qui sont très intéressantes, dans
lesquelles
je ne me suis pas plongée d'ailleurs.
Le jour où vous marierez, vous aurez un enfant, vous l'appellerez Rachid.
Rachid
Parmentier. Rachid
Parmentier,
bien entendu. Je
ne l'ai jamais fait. On m'a appelé Rachid pendant toute ma scolarité, mais Rachid, non, il faut que les choses évoluent.
La question, parce que vous l'expliquez dans votre livre, mais maintenant je voudrais la vérité. Pourquoi êtes-vous allé à présent? Parce qu'il y a quand même un truc, il faut bien reconnaître que aujourd'hui, enfin, il y a 9 ans, ce qui était à peu près un peu de choses, la même ambiance, une étudiante à Paris qui se dit, tiens, j'ai envie de faire du journalisme, je vais aller à présent, ou elle n'a pas tout compris au film, ou il y a quelque chose.
Ça s'est pas passé exactement comme ça, c'est-à-dire que d'abord je voulais vivre à Pau au départ, je voulais habiter Pau, et puis j'ai voulu me marier, et mes parents étaient contre ce mariage, et ils m'ont envoyé à Paris terminer mes études.
Et là on dit merci papa, vraiment.
Et je suis partie à Paris pour continuer ma licence de lettres et parce que j'avais envie également de faire une école de journalisme. Et comme j'avais le cafard ce jour-là...
Voilà l'idée qu'elle est bonne.
Justement. Comme j'étais triste et que j'étais malheureuse et comme mes parents étaient des abonnés fondateurs de Présent depuis le début, j'ai eu envie... pour me distraire et puis pour me réconforter, d'aller mettre une tête sur les signatures que je lisais chaque jour, puisque je lisais souvent Présent, j'appréciais son ton, j'appréciais ce qu'on y disait et ce que j'y apprenais. Et donc j'ai été à 6h du matin, ding-dong, sonner à la porte de Présent. Et là, j'ai fait la connaissance des journalistes qui étaient là. C'était donc en 87, il me semble. Il y avait tout le monde. J'ai fait le tour des bureaux.
Comme ça, ils vous ont laissé entrer.
Mais c'est-à-dire que je m'étais inventé. Enfin, je m'étais trouvé une contenance parce que je voulais pas arriver comme ça, bêtement. À 20 ans, on est bête. On pense qu'on peut pas arriver en disant je voudrais juste.
Voir nous, si on était bête qu'à 20 ans, mais je peux vous dire qu'à 50, ça s'arrange pas du tout.
Je voulais pas leur dire, je voulais juste leur retête, et je leur ai dit, voilà, je prépare un mémoire sur Présent. Et j'avais un petit magnétophone, sans cassette d'ailleurs à l'intérieur. Et ils m'ont dit, mais entrez, bien sûr, avec plaisir, on va
voir. Je vais quand même m'interrompre et dire que si elle avait fait ça à 50 ans, elle ne serait pas rentrée, parce qu'il faut quand même regarder le visage de Mademoiselle Parmentier. Je pense que le magnétoscope était un accessoire superflu.
Magnétophone, pardon.
Merci beaucoup.
Oui.
Et donc, j'ai été invitée à faire le tour des bureaux. J'ai rencontré Rémi Fontaine, Daoudal, Sanders. Rémi Fontaine, très gentiment.
Vous avez vu Sanders et vous êtes revenu.
Je revois encore sa tenue. Il avait un t-shirt de vétéran du Vietnam, des bottes de cow-boy et voilà, c'était bien lui donc.
Oui, et pas de doute. Le portrait est craché.
Et Rémi Fontaine même s'était fendu d'un topo assez très joli sur présent, l'histoire de présent et sur.
Il n'est pas avare de topo, Rémi Fontaine. Bien expliqué. Non mais c'est vrai.
Et alors le magnétophone tournait.
Côté scout,
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Il
oui,
a
oui.
pris la petite. Oui. La petite louvette en main, il lui a dit, attends, je vais t'expliquer.
Exactement. Et
Maghera. Et la première rencontre avec Madiran, alors.
La première rencontre avec Madiran, ça s'est fait...
Ça doit être...
Le même jour, il me semble, oui, dans la foulée, puisque j'étais assez impressionnée quand je l'ai vu pour la première fois, avec son regard très bleu, transperçant, je me souviens encore, et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grande? Ce qui m'a tout de suite mis à l'aise.
Alors je dis, je veux être directrice de presse.
Je veux être journaliste et alors donc je vais faire une école de journalisme à Paris. Et c'était une mauvaise réponse. Il m'a dit, selon la formule de Charrier, vous savez que apprendre le journalisme dans une école, c'est comme apprendre à nager par correspondance. Alors si vraiment le journalisme vous intéresse, eh bien puisque venez donc faire un stage chez nous. Et puis ça n'engage à rien, vous ferez un stage en attendant juste après l'été là, en attendant votre rentrée à la fac, vous ferez un stage chez nous et c'est ce
comment
que j'ai
on dit
fait.
Maintenant un stage formant non
oui un stage
je sais pas rien
diplômant
c'est ça oui.
Un stage diplômant.
Mais donc, tu vois la nuance entre formant et diplôme.
Oui, bien sûr.
Diplôme, ça va être formé. Le président de la République n'est vraiment plus aucune illusion, tu vois.
Donc, un stage diplômant. Et à l'issue de ce stage, vous êtes...
C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par avoir l'appendicite, ce qui m'a...
Une bonne idée.
J'avais très peur que ça me disqualifie définitivement, parce que vraiment, ça fait très mauvais effet quand on appelle en disant « Vous m'avez proposé un stage, je trouvais que c'était la chance de ma vie, moi j'étais ravie, mais non, j'ai l'appendicite, ça fait vraiment minable. » Et d'ailleurs, plusieurs fois, ils ont répondu au téléphone qu'ils n'étaient pas là quand j'ai appelé à ce moment-là. Et par la suite, ils m'ont avoué qu'effectivement, ils m'avaient pris pour une rigolote à ce moment-là. Et j'ai donc fait mon stage de 3 mois. Et Madiran m'avait dit, 90 jours, c'est une bonne distance pour savoir si vous nous convenez et si nous vous convenons. La formule était très élégante. Et on m'a proposé de rester. Et je suis restée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre.
Qu'est-ce que vous avez appris en réalité? Est-ce que vous avez appris à écrire, par exemple? Ou est-ce que vous saviez déjà écrire? Est-ce que vous avez appris à enquêter? Est-ce que vous avez appris à,
non, je savais,
à fouiller?
Je ne savais rien faire. Madiran dit que la seule chose que je savais faire, c'était, non pas le café, mais de tirer des sonnettes. C'est-à-dire que j'avais un côté un peu, disons, qu'on appelle ça, débrouillard.
C'est pour ça qu'on aime bien les filles dans la presse au début. Non, mais c'est vrai, parce que comme elles sont très timides en général, ou bien élevées, elles ont cette espèce d'invraisemblable audace des timides,
qui oui, font c'est
qu'on peut leur dire n'importe où, on leur dit bah tiens va voir Tartempion, ils y vont, elles sonnent, bonjour madame, c'est vous, oui, voilà, c'est quand même, alors que un homme fait, il se dit oh là là, c'est délicat,
oui,
c'est gênant,
exactement ça, c'est vrai. Donc il a estimé que j'étais dégourdie, c'est déjà ça.
Bah, pour puis... une petite fille qui a monté de peau, c'est une belle qualité, hein, il fallait de la résistance.
Et puis j'ai appris, bien sûr, j'ai travaillé des heures, des jours, j'ai rewriting de dépêches, résumé de textes, j'ai été recorrigée, réécrite des dizaines de fois, et le métier a fini par rentrer.
C'est maintenant, franchement,
bien forgeron.
Hein, franchement, quand on lit un Parmentier dans présent, quand vous relisez un Parmentier dans présent, vous êtes contente ou pas? Alors, vous dites la vérité.
Non,
moi, quand je relis un Beckett, je suis toujours, pas toujours, mais souvent très très content.
Non, c'est pas moi qu'il faut poser la question.
Je suis même assez étonné par moments.
Je pense honnêtement que j'ai fait des progrès, ouais. C'est vrai. Et c'est une des premières choses que j'aime dans ce métier, c'est qu'on est obligé de progresser. C'est un challenge quotidien.
Un défi. 4 lettres seulement, c'est beaucoup plus économique.
C'est un défi quotidien et c'est vrai que on est obligé de progresser. On apprend. Moi, j'ai appris donc sur le tas. J'ai appris le métier à la fois par contagion, en fréquentant les autres, en essayant de leur ressembler, en écoutant ce qu'ils me disaient, en essayant d'assimiler, en essayant de tout retenir. Il y avait des jours où c'était difficile. J'ai l'impression que je suivais pas du tout. Je fréquente quand même des gens cultivés, brillants, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, et j'étais très très loin d'eux.
Vous avez connu le, je sais pas, ça existe peut-être toujours, ce système des réunions que Madiran faisait. Où chacun devait réciter
oui,
un poème par
cœur. Oui, bien sûr que oui. Oui, je l'ai connu
pendant...
Racontez-nous
comment ça se passait.
Mais Madiran disait que ces réunions, le principe c'était que chacun apprenait quelques vers ou de la prose et le récitait à la réunion, et les autres devaient deviner qui était l'auteur. Le but étant de trouver un texte non connu d'un auteur très connu. Et Madiran avait cette formule, disait ça cultivera les jeunes et ça entretiendra la mémoire des moins jeunes. Et c'est ce que nous avons fait. C'était très amusant d'ailleurs. Et on a renoncé parce que, je sais pas, les choses changent, d'autres choses viennent les remplacer. Voilà.
Quel est votre souvenir le plus fort aujourd'hui, à présent?
Ça, c'est une question difficile. J'aurais dû la préparer.
Ah oui.
On en a trop, c'est pour
j'aurais
ça.
J'aurais dû vous la poser avant.
Je commence par dire merci de me l'avoir posée.
c'est une bonne question, je vous remercie.
Mon souvenir le plus fort à présent.
Moi, je peux vous dire mon plus souvenir le plus fort à minute.
Oui, allez-y.
C'est le jour où on m'a foutu à la porte.
Alors, elle a un handicap par rapport à toi.
Mon souvenir le plus fort, je dirais, parce que je continue d'être enthousiaste et très passionnée par ce que je fais. C'est vrai, j'ai une passion pour ce que je fais. Mon souvenir le plus fort, c'est toujours celui du jour que je viens de passer. Et
Je pensais que vous m'auriez parlé du procès, quand même, parce que ça a été un événement assez incroyable.
Oui, alors je pensais au souvenir gay, là. Oui, bien sûr.
Non, mais c'est un souvenir gay. Quand vous êtes sorti de ce prétoire avec les lecteurs de présent qui étaient là, qui vous ont pratiquement porté en triomphe. Enfin, c'est un événement incroyable.
Oui, c'est vrai.
Dans la presse écrite, on n'a jamais vu ça. Cette mobilisation pour une plume qu'on n'identifie pas, parce qu'on ne connaît pas la voix, on ne connaît pas le visage, ou très mal, le lecteur. Et donc, il arrive à se prendre d'affection.
Oui, ça n'a pas effectivement, ça n'a pas fini de m'étonner. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que les lecteurs ont été formidables, ils ont été sensationnels, ils m'ont énormément aidé, ils m'ont vraiment littéralement tenu la main depuis le jour où j'ai reçu ce papier bleu. Ils ont marché à fond avec nous pour deux raisons, je pense. D'abord parce que Madiran, c'est vrai, a monté à la force du poignet une campagne sans précédent. Il l'avait dit d'ailleurs, il a dit on va faire de l'affaire Parmentier une affaire exemplaire, sans précédent depuis la naissance de présent. Et c'est ce qu'il a fait. Et la deuxième raison, c'est parce que la question de l'immigration et de la liberté de pouvoir dire la vérité sur l'immigration en France concerne de plus en plus les gens, et c'est devenu, je crois que le problème de la dictature intellectuelle et de la police de la pensée exercée par la LICRA est vraiment, je dirais, au centre de leurs préoccupations. Les gens se sont sentis responsables, et c'est pour cela qu'ils se sont mobilisés, derrière présent.
Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 6 janvier 1981, quand le premier numéro de présent est paru? 82, pardon.
Je pense qu'on devait l'attendre impatiemment avec mon père, puisque mon père donc était abonné fondateur.
Oui.
On s'est dit, pour nous c'était, je m'en souviens, j'étais quand même beaucoup plus jeune, mais je me souviens.
Ah oui, vous avez pratiquement 15 ans de moins, quoi.
On peut dire ça.
Ouais.
Mais je me souviens très bien de l'espoir et de la joie de mon père en disant, on va enfin avoir un quotidien à nous, un quotidien de chez nous. Et je me rappelle très bien de l'émotion qu'on a ressentie en l'attendant et en le recevant. Et c'est vrai que c'était un ton totalement nouveau, et ça a été pour nous un très beau cadeau.
Et qu'est-ce que vous ferez dans 15 ans?
Ah, ça, c'est une très bonne question aussi. Dans 15 ans, la même chose, bien sûr. En mieux, j'espère.
À présent?
Bien sûr. J'espère que je ferai encore des progrès.
Et vous aurez publié d'autres livres?
Oui. Enfin,
vous avez commencé?
Je le souhaite, oui. Je veux continuer à écrire, bien sûr. C'est ma première vocation, c'est d'écrire.
Eh bien, merci. Moi, j'ai trouvé ce livre, je l'ai dit dans le dernier numéro du Libre Journal, je l'ai trouvé excellent. C'est un très bon reportage sur présent. C'est surtout ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est pas un autoportrait direct. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui vous raconte ses états d'âme ou ses états de vie. C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il voit. C'est Caroline Parmentier qui raconte ce qu'elle voit. Et à la travers la façon dont elle raconte ce qu'elle voit, on devine le personnage. Et c'est bien agréable. Et puis, il y a deux chapitres superbes sur le cinéma, parce que Vous êtes comme la plupart des collaborateurs de présent, je crois, une cinéphile un peu monomaniaque, non?
C'est-à-dire que oui, comme je fais la critique, je m'occupe de la critique de cinéma dans présent, je vais souvent au cinéma. Il se trouve que ces deux films, qui sont donc Le Hussard sur le Toit et Jeanne d'Arc, me paraissaient en plus entrer dans ma vie, entrer dans ma démonstration. Le Hussard sur le Toit, d'abord, était un livre pour moi fétiche, enfin culte, on dirait maintenant. Et c'est vrai que c'est davantage... plus qu'une critique de ces deux films, c'est davantage une projection sur ma propre vie, sur mon travail et sur présent. Voilà.
Voilà, ça prouve qu'on peut être jeune et intéressant.
Et plein de talent.
Voilà. Je vous remercie.
Quand j'étais jeune, je savais que c'était le cas, mais maintenant que je suis
c'est
moins jeune.
C'est difficile à dire au micro, mais c'est la vérité.
Hein? Les autres en étaient forcément moins convaincus que tu ne l'étais toi-même. Alors que là,
les gens plus vieux que moi trouvaient effectivement que c'était pas sûr. Mais bon.
Et quand elle nous dit qu'elle progresse chaque jour, on attend avec impatience demain, pas plus.
D'où ça va voir notre tombe peut-être?
Comment?
D'où ça t'allait voir d'autres tours?
Ah oui, je vois que vous avez de cette lecture.
Puis moi, ça me surprend pas qu'elle ait eu un accueil comme ça à présent, parce que bon, moi je vois dès le début, pourtant j'étais pasteur, j'étais protestant, bon.
Non,
on savait ce qui nous différenciait, mais j'ai toujours été accueilli de manière très très gentille, les gens de présent ont compris.
Oui, ça je veux dire que c'est un truc, moi ce qui me fait le plus rire de avec amertume, quand je lis des papiers sur la, où on parle de présent, où on parle de la presse d'extrême droite et tout, c'est de lire les mots comme sectaire. C'est-à-dire que, véritablement, s'il y a un mot qui convient pas pour définir l'esprit de présent, c'est l'esprit sectaire. Hein. C'est un esprit de parti ou de parti à la fois de parti de civilisation, de parti de politique et de parti même religieux. Mais c'est pas sectaire. Quand on a Madian en face de soi, on n'est pas en face d'un bonhomme sectaire. On est en face d'un bonhomme qui est un puits de science, d'expérience, de sagesse et de malice en même temps, mais qui écoute. Il a une façon d'écouter qui parfois fait passer dans le regard beaucoup plus de choses qu'il n'en dit, et il y a des moments où on se sent quand même tout petit dans ses chaussettes. Moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois avec lui, quand je lui disais certaines choses, il me regardait et je sentais qu'il se disait, mais c'est pas possible, c'est ça l'avenir de la presse, mais quelle tragédie! Et vraiment, mais bon, il le disait pas, il a toujours été très très poli
et je crois que les gens de présence sont des gens intelligents parce que, je crois que tout ce qui sert la cause d'entrée, hein, ce qui sert le mouvement, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, tout ce qui fait avancer le Schmilblick, comme disait Coluche et comme aime le dire Serge, ça a été très, très bien perçu dès le début et je peux dire que j'ai eu un soutien sans faille et que je l'ai encore.
C'était tout à fait normal et je peux vous dire qu'on vous aime beaucoup.
C'est réciproque.
Heureusement qu'on s'est mis en veille.
Parle de quelqu'un qu'on aime bien, tiens, ça va nous faire plaisir. Là, regarde.
Qui on aime bien
tomber.
La 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a condamné lundi 20 janvier 1997 Monsieur Conneau et son éditeur, les éditions de Noël, Konopnicki même, et son éditeur, les éditions de Noël, pour diffamation envers Jean-Marie Le Pen et le Front National, à raison des propos tenus dans le livre, ils appellent ça un livre. Moi, il y a d'autres mots, il y a un saut d'aisance, par exemple, enfin, c'est du papier. Les filières noires. Ils ont été condamnés à verser chacun à Jean-Marie Le Pen champagne pour tout le monde, 10 000 francs à titre d'amende, ça fait 20 000, 8 000 au titre des dommages et intérêts, ça fait 16 000, 36 000, 7 000 au titre de l'article 475.1, ça fait quand même 50 000 balles tout ça. Enfin, le tribunal a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans deux journaux. Libre Journal ne publie pas les communiqués judiciaires, autrement parce que ça rapporte, hein, au choix des parties civiles à hauteur de 15 000 francs par insertion. Hein? Il y a du nanan, là. Le Front National était défendu par maître Marine Le Pen. Alors, elle se met à gagner des procès, alors là...
Tu vois que Dieu est avec nous, Serge. Tu le dis à l'instant.
Si elle se met à gagner, alors on a plus à gagner. Je veux dire, des procès comme ça, parce que c'était un procès de la police de la pensée, ça. Hein.
Ah oui, typiquement.
Cono, hop, au trou, Cono. C'est bien fait, là, l'air, je suis bien content. Bon, monsieur Plénier... Alors, je tiens à dire, je vais faire le petit discours habituel. La présence de mes invités à cette table ne signifie pas qu'ils sont d'accord avec tout ce que je dis, qu'ils sont d'accord avec ce que disent les autres invités, que les autres invités sont d'accord avec ce qu'ils vont dire. C'est clair? Donc,
c'est clair,
monsieur Plénier n'est pas forcément adhésif aux idées du Front National. C'est pour ça, la semaine dernière, par exemple, j'ai donné la parole à Philippe Aziz,
qui téléphone, qui dit ce qu'il avait à dire, et puis dans le courant de sa démonstration, il dit je n'ai aucune sympathie pour les idées du Front National, je les combats et tout, bon, ce qui est son droit, après tout, lui au moins il nous crache pas dessus. Et il y a un auditeur qui a téléphoné en disant expliquez-vous, vous avez invité un de vos amis à l'antenne et il dit du mal du Front National. Mais tous les gens qui causent dans le micro sont pas mes amis. C'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Hein? Il y a aussi des gens qui sont... Bref, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on parle dans le micro qu'on est mon ami. Je dis pas ça pour M. Plénier, que je n'ai pas l'honneur de connaître plus que ça. Encore que je viens de constater que lui m'a fait l'honneur de me lire alors que j'étais à peine un débutant, puisque vous avez évoqué une de mes œuvres de jeunesse, une de mes erreurs de jeunesse.
Oh, une erreur, des gens vont rire.
Ça s'appelait les déboires d'outre-tombe, c'est quand même assez gonflé, non, d'avoir fait ça. Alors vous faites breton d'ailleurs. Journal d'information des Bretons expatriés. Et Bloavez Mad, c'est le premier numéro de janvier, ce qui veut dire
bonne année, tout simplement.
Voilà. Donc c'est logique. Donc bien que breton, vous restez quand même dans le cadre d'une certaine logique calendaire.
Ah bah, de toute façon, le calendrier chrétien est le même en Bretagne, en Grande-Bretagne, en France, en Irlande, un peu partout, hein.
Alors, il est très beau ce magazine breton d'ailleurs. Je l'avais déjà présenté tout à fait au début, là c'est numéro 9, c'est un grand format avec de fort belles couleurs.
Et un beau papier.
Et un beau papier, luxueux.
Mmh. Des belles photos.
Ça sent le fric, les enfants.
Ça coûte cher tout ça.
Il y a même une belle photo de monsieur René Couanneau, député maire de Saint-Malo. Une ville à portée d'affaires. Bon, écoutez, non, il faut... Attendez.
Et des belles couleurs.
Ça, il faut quand même insister là-dessus. Monsieur René Couanneau, député maire de Saint-Malo, alors je ne sais pas de quelle partie, dit, il appelle sa ville, une ville à portée d'affaires, ouvrez les guillemets, affaires, au pluriel, fermez les guillemets. Je me demande si c'est
prémonitoire. Bien... Prémonitoire. Pas précisément, il veut dire par là que si vous voulez gagner des sous, allez à Saint-Malo. C'est un vieux discours malouin, depuis les corsaires, qui étaient de paisibles commerçants, comme chacun sait.
Je ne sais pas si c'est un bon argument pour le défendre, ça. C'est l'histoire de corsaires. Il faisait la course.
Donc... Oui, mais la course était une entreprise commerciale.
Oui, non, mais c'est ça, enfin, d'un style un peu comme ça. Alors, les Bretons de Paris, c'est un des thèmes principaux
de
ce numéro, plus exactement les Bretons à la conquête de Paris.
Oui, parce que les Bretons à Paris, c'est une vieille histoire. D'abord, pour savoir que si Paris s'appelle Paris, c'est suivant la tradition bretonne dans un acte fou d'orgueil, les Lutétiens ont voulu comparer leur ville à la ville d'Is, et ce qui fait qu'ils ont appelé Lutèce par Is, qui veut dire pareil à Is. Voilà pour la tradition.
Et vous voudriez qu'on prenne les Bretons au sérieux quand ils racontent des calembredaines pareilles.
Bon, enfin, la réalité est la suivante, c'est que les Bretons sont venus à Paris depuis très longtemps. Les Bretons sont venus à Paris dès le XIIe, XIIIe siècle. L'un des premiers Bretons illustres venus à Paris, c'est Monseigneur Monsieur Saint-Yves, patron des avocats, patron de la Bretagne, premier patron de la Bretagne avec Saint-Anne. Et Saint-Yves a fait ses études à Paris et à Orléans pour le droit et pour ce qu'on appelait les arts, c'est-à-dire en gros l'équivalent des lettres, du commentaire de texte, etc. Ensuite, il est retourné.
Il savait lire.
Il savait lire, il savait aussi...
Je pose la question parce que c'était un breton.
Ah oui, mais les bretons savaient lire et savaient écrire. Mais vous savez qu'à cette époque-là...
Je vais y arriver, je vous dis qu'il va me gifler avant la fin de
l'île. Ils le savent encore, d'ailleurs.
Mais vous savez que même à cette époque-là, on avait un système de versification encore plus compliqué que le système français, puisque c'était un procédé par rimes internes. C'est un système de versification qui a perduré en breton jusqu'au XVIIe siècle. C'est-à-dire que dans un vers, on peut citer comme exemple... En égarat la cardlas, ça veut dire la blanche et blonde me réjouit, l'aimable aux yeux bleus.
Pourquoi vous regardez Curly pas mentir des autres?
Aux yeux bleus, ça sera difficile.
Oui, c'est pour la rime.
Ouais, parce que à l'intérieur du vers, il y a deux rimes. Il y a la fin. Du premier amistiche correspond avec l'avant-dernière syllabe du deuxième amistiche.
Ce que vous avez récité, ça fait penser à des poésies de Tolkien pour Seigneur des Anneaux.
Parce que Tolkien s'est inspiré notamment du fond gallois, parce que c'est un système de versification qui est commun aux Gallois et aux Bretons continentaux.
Si j'avais su, j'aurais demandé à mon fils de venir qui vous récite des poèmes de Tolkien comme s'il les avait écrits. Enfin, il n'est pas là. Alors, donc, Saint-Gilles savait lire, donc on est déjà...
Saint-Yves,
Saint-Yves, pardon, Saint-Gilles. C'est... Saint-Yves savait lire, et il est venu à Paris, et c'était le premier Breton.
Le premier Breton célèbre, connu à Paris, et ensuite il est retourné en Bretagne, il est devenu recteur de Louannec, et en même temps juge officiel de Tréguier, et puis il est devenu ce que l'on sait de lui, c'est-à-dire l'avocat des pauvres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... C'était pas l'abbé Pierre de l'époque, c'était peut-être plus sérieux, puisque lui, c'était dans son manoir familial, dans son manoir de recteur...
Puis au moins il n'était pas négationniste, lui.
À l'époque on s'en fichait.
Bah voilà, justement.
C'est dans son manoir de recteur qu'il accueillait tout le monde, et non seulement il leur donnait à manger, mais il leur donnait aussi à écouter l'évangile, et il leur donnait aussi à prêcher la bonne parole.
Oui, bah pour un saint, c'est la moindre des choses. Vous ne voyez pas, c'est bien sûr sa plaque de sa porte, il y a Saint-Yves, on rentre, on dit, vous allez me lire l'évangile, non, j'ai pas de temps à perdre.
Et il reste de lui cette phrase aussi, advocatus et non latro, res miranda populo, c'est du latin, ça veut dire...
Non,
je croyais que c'était du breton.
Non, ça veut dire avocat sans être voleur, chose admirable pour le peuple.
Étant donné les invités qui illustraient une autre émission de cette radio il y a deux jours, je ne peux pas commenter cette phrase. Ça serait malvenu. Comment on dit ? Avocat sans être voleur, chose admirable pour
le peuple. Advocatus et non latro, res miranda populo.
Res miranda populo, c'est beau, hein. L'ablatif absolu, quand même une belle invention. C'est bien ça, c'est l'ablatif absolu.
Ah non, c'est pas...
Non, c'est le gérondif, ça.
C'est un gérondif, oui.
Oui, c'est un gérondif. Ouh. Ah oui, non. L'ablatif absolu, c'est delenda est Carthago.
Non plus.
Comment ? C'est un gérondif aussi, ça ?
Oui, Delenda Carthago, c'est un gérondif.
Je vais me faire très mal, voilà.
Et le Beckett, je vous me ferai sans ligne.
Il va falloir que je reprenne mon gaffio à zéro. Alors, à part ça, là, on va revenir au breton. Est-ce qu'il y a réellement un lobby breton à Paris aujourd'hui ?
Le lobby breton se constitue un peu autour de certains parlementaires bretons. Il est aussi surtout très actif à Bruxelles, autour des institutions européennes. Il faut le savoir, il y a à Bruxelles, il y a une représentation bretonne qui est très active et qui est très efficace, notamment pour certaines industries bretonnes, pour l'attribution de certaines aides. Mais le lobby breton n'a jamais eu l'importance, par exemple, du lobby auvergnat.
Alors, par exemple, les auvergnats, on sait qu'ils sont dans les bistrots, mais les bretons, ils sont où ?
De l'autre côté du bistrot, voyons.
Ils sont aussi dans les bistrots, mais du mauvais côté du bar.
Mais faut savoir que, par exemple...
On est en train de se faire beaucoup d'amis, là. Beaucoup d'amis.
Mais faut savoir, par exemple, que à Montparnasse, aujourd'hui, on voit encore la ville de Nantes, le cadre en Breton, la ville de Guingamp, la ville de Saint-Malo, etc. Mais autrefois, tous ces bistrots-là, c'était des bistrots tenus par des gens qui venaient de Saint-Malo, qui venaient de Morlaix, etc. Et quand on allait à la ville de Guingamp, on était sûr de pouvoir parler le breton du coin avec le patron. Quand on allait à la ville de Morlaix, on pouvait de même parler le breton de Morlaix, Montmontrouls.
Parce qu'en plus, c'est pas le même.
Il y a des nuances dialectales. Hein. C'est comme...
Blague à part, donc quand je dis qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des métiers, des milieux où on trouve plus de bretons qu'ailleurs ?
Actuellement, on trouve des bretons un peu partout. Autrefois, on trouvait...
Moi, j'en connais, hein.
Oui, président du Front National, c'est un bon métier, mais il n'y a pas beaucoup de demandes.
Moi, je connais Daoudal.
Oui, ben, ce qui veut dire deux fronts, deux faces.
Ça lui va très
bien. Le pain est Daoudal, la tête est deux faces, par ça.
Non, mais il y a les...
C'est drôle parce que Le Pen, les lettres de Le Pen en hébreu, ça veut dire la tête aussi. Il m'a dit un hébraïsant de mes amis, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le temps. Pour apprendre l'hébreu, c'est un peu long.
Oui, mais les Bretons, on les a retrouvés, je parle des 50 dernières années, on les a retrouvés notamment dans l'industrie automobile autour de Paris, on les a retrouvés aussi dans tout ce qui était coiffeur, etc. Il y a encore aujourd'hui une union des coiffeurs bretons, il y a des associations professionnelles qui regroupent des Bretons, mais on les a retrouvés aussi énormément dans l'église. Les Bretons, surtout le Léonard, le pays de Léon, c'est une terre de curés, comme chacun sait. Mmh. Mais il n'y a pas de...
Il doit y avoir un proverbe là-dessus, d'ailleurs.
Oh, vous savez, on dit plusieurs choses sur les léonards. Hein. On dit une main, le chapelet dans une main, le couteau dans l'autre, la troisième dans la poche du voisin.
Hein. On en dit aussi que les léonards de Vinci, mais enfin, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une culture bretonne à Paris ? Est-ce qu'il y a des cercles, mais pas seulement des cercles, des bagades ou des cercles folkloriques.
Des bagadous, au pluriel.
Des bagadous, voilà.
Des bagadous.
Bah, mais c'est pour ça qu'il chantait Bagadou Doudou, non c'est autre chose.
Il y a des foyers de culture bretonne à Paris, il y a plusieurs cours de langue bretonne à part sur Paris. Il y a des ateliers de danse, de musique, et pas seulement de bagade, hein, mais aussi de harpe celtique, binucose, bombarde, etc. Un breton qui arrive à Paris peut très bien apprendre le breton, l'harpe celtique, le chant traditionnel breton, peut pratiquer tout ça, évidemment, et parce qu'il y a, à Paris même, il y a la mission bretonne, il y a Thiers Boisonnet, qui est un endroit où on ne parle que breton. La défense de cracher par terre et de parler français.
Je lis ça. La vengeance, la basse vengeance des enfants à qui on a tiré les oreilles dans les cours d'école.
Et si on avait fait retirer les oreilles.
Oui, faites-nous pleurer un peu sur le sort des minorités opprimées.
Ben, là, en l'occurrence, vous savez, samedi, j'ai rencontré une amie qui a 50 ans. Elle était de la région de La Feuillée et elle me disait, quand je suis arrivé à l'école, je parlais pas un mot de français. Et qu'on nous faisait honte de parler breton, on nous considérait comme des moins que rien, comme des arriérés, comme des dégénérés, parce que notre langue c'était le breton. Et quand les instituteurs disaient aux parents qui parlaient breton à leurs enfants, alors quoi, vous parlez la langue des poules et des oies? Hein, ça, faut savoir ce que ça a été, la tentative d'éradication de la langue bretonne par l'État jacobin. Hein. C'est pas de la blague, c'est pas... Et ça passait aussi par la délation. Avez-vous entendu parler du symbole?
Non.
Le symbole,
qu'est-ce que
c'était soit un sabot percé avec une courroie, soit un anneau, n'importe quoi, qu'on passait au cou d'un élève de l'école qui était surpris à parler breton. Et par la récréation, autrement, pendant la classe... Et il ne pouvait s'en débarrasser qu'en dénonçant celui de ses camarades qui parlait breton. Et le dernier à porter le symbole autour du cou à la fin de la classe était en retenue. Voilà comment on a essayé de...
Décidément, cette république jacobine me plaît de plus en plus. Et je suis content d'être français et républicain, moi, c'est... Voilà.
C'est un contentement que je vous laisse.
Ne passe pas lourd. Est-ce que le Breton d'ailleurs, le journal auquel vous avez collaboré là, est-ce qu'il a quel est son objectif? Parce que ce que vous nous avez expliqué, c'est enfin le discours que vous tenez, c'est plutôt un discours identitaire et de civilisation et de tradition. Mais j'ai l'impression, quand on voit ce journal, quand on voit son contenu, qu'il y a aussi une dimension économique très forte.
Ben, bien sûr, parce que l'essor économique de la Bretagne, il faut bien savoir qu'il y a 25 ans encore, la Bretagne, au point de vue économique, c'était pas grand chose, hein. L'essor économique de la Bretagne a marché de pair avec une prise de conscience culturelle. Hein, quand vous voyez la Bretagne aujourd'hui, je connais tous ceux qui ont dans la cinquantaine, même plus, me disent, mais quand j'étais tout petit, la Bretagne c'était encore le Moyen-Âge. Il y avait le problème de la langue, il y avait aussi le problème des transports. Aujourd'hui, la Bretagne, vous pouvez vous déplacer en 3 heures de Rennes à Brest, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Et la Bretagne est devenue une des régions les plus riches de France, notamment par du fait de l'agroalimentaire, du fait aussi de l'industrie automobile, du fait aussi des technologies de pointe, et du fait enfin du tourisme. Hein, les derniers sondages disent que la Bretagne est la région la mieux aimée des Français pour tout ce qui concerne le tourisme, pour les vacances.
Ils aiment beaucoup la Bretagne et ils vont sur la Côte d'Azur.
Ah mais la...
Pour la garder intacte.
Oui, c'est ça.
La dernière saison touristique...
Mais moi je vais souvent en Bretagne et je préfère qu'il y ait moins de...
Mais il y a beaucoup de monde en Bretagne.
Oui, absolument, il y a beaucoup de monde en Bretagne. Mais la Bretagne, il y a quand même beaucoup plus de kilomètres de côte que la Côte d'Azur.
Oui, puis en plus on y parle français, alors c'est bien agréable, on comprend.
En Bretagne?
Oui, bon, on va peut-être abandonner. Non, parce qu'elle veut dire du mal de la Côte d'Azur, c'est sûr. Breton d'ailleurs, ça s'appelle. Et c'est très très beau. Alors, où est-ce qu'on s'abonne? Où est-ce qu'on le trouve? En kiosque?
En kiosque.
On le trouve en kiosque.
En kiosque.
Et le prix est de 20 francs. Alors, je vais vous dire, moi je ne sais pas comment font ces gens-là. Parce que déjà, avec mon libre journal à 27 francs l'unité, j'y arrive pas. Tout juste. Alors, il n'y a pas une ligne de couleur dans mon journal. Il n'y a pas une photo non plus. Il n'y a pas de photo. Sauf la photo de Caroline Parmentier la semaine dernière, mais c'est vraiment...
Ben là, c'est quand même un produit d'appel.
Voilà. Mais là, tout en couleur, des photos partout, des textes intelligents, bien signés, etc. C'est un bel objet. Bel objet. Félicitations et félicitations. C'est Jérôme Pinel qui est l'inventeur de ça.
C'est Jérôme Pinel, oui, qui est l'initiateur de cette petite feuille de chou. Cette modeste publication qui est destinée à être un trait d'union entre tous les Bretons qui aiment leur pays, où qu'ils soient en Bretagne, qu'ils soient ailleurs, en France, en Europe, à l'étranger, partout.
Eh bien, Bloavesmat.
Ah, quel honneur.
Voilà, vous voyez, alors je voudrais dire à l'auditeur qui a téléphoné en disant, avant de vous moquer des Bretons, éclaircissez-nous sur vos origines, que, bon, je vais pas faire un discours sur mes origines, mais je me moque pas des Bretons, je taquine un peu Serge Plénier, et puis parmi mes ancêtres, il y a l'amiral Clouet, qui était un Breton bretonnant, et qui a été ministre de Jules Ferry jusqu'au jour où il a été viré comme réactionnaire. Donc vous voyez que...
Ah, de toute façon, Monsieur Ferry a beaucoup de choses à faire pardonner des Bretons.
Oh oui, ces gens-là ont beaucoup de choses à faire pardonner.
Vous avez entendu parler de l'affaire de Ponly?
Oui.
On en reparlera une prochaine fois.
Delenda est Carthago est un adjectif verbal d'obligation et non un gérondif, vous m'avez rendu avec de l'erreur. Et un exemple d'ablatif absolu, c'est Kikerone consule, comme on disait de mon temps, ou Catilina tout perfectus est, imperfectus est. Kikerone consule, c'est donc un ablatif absolu. Je me couvre la tête de cendres. Et vous avez cité un dicton. Incomplètement, puisque c'est Sancto Ivo erat prito advocatus et non latro res miranda popula. Saint Yves était prêtre, avocat et pas voleur, chose admirable pour le peuple.
Voici un message d'Elisabeth Depré, animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados.
Je m'appelle Elisabeth Depré. Je suis l'animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados. Lorsqu'Henri de Lesquin m'a demandé, à moi, simple auditrice, de m'adresser aux autres auditeurs pour leur dire l'importance de se battre pour l'existence de Radio Courtoisie, je n'ai pas beaucoup hésité. Je pense que nous avons une mission à accomplir au service de notre chère radio, pour la remercier du bonheur qu'elle nous procure et de l'ardeur qu'elle met à défendre notre pays. J'ai découvert Radio Courtoisie par hasard en cherchant un bulletin météo. J'ai vite compris que je venais de trouver une radio exceptionnelle. Radio Courtoisie est devenue pour moi un antidote au conformisme. Elle rythme ma vie et remplit toutes mes attentes. Grâce à elle, j'ai cessé de me sentir un dinosaure, car je sais maintenant que de très nombreux auditeurs partagent les mêmes valeurs que moi. L'idée que notre radio puisse disparaître m'est tout simplement insupportable. Je ne peux même pas imaginer l'isolement et le désespoir dans lesquels nous risquerions de retomber. Il ne faut pas que cela arrive. Je vous ai expliqué avec mes mots pourquoi Radio Courtoisie est importante dans ma vie, comme elle l'est sans doute dans la vôtre, pourquoi je lui donne et pourquoi vous devez vous aussi lui donner. J'espère donc que, comme moi, vous allez cotiser et vous battre pour que vive Radio Courtoisie.
C'était un message d'Elisabeth Depré, animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados. Si vous aussi vous souhaitez créer votre cercle d'auditeurs ou être mis en relation avec Elisabeth Depré, appelez notre secrétariat au 01 46 51 00 85 ou adressez-nous un courrier avec vos coordonnées.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur le bouquet satellite CanalSat, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
Tout de suite, la seconde partie du document Radio Courtoisie, le libre journal de Serge de Beketch du 22 janvier 1997, présenté pour sa deuxième partie par Daniel Amiche. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 3h31.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Beketch, dirigé successivement par Serge de Beketch, assisté de Victoria et par Daniel Amiche. Document d'archives du 22 janvier 1997, rediffusé dimanche 24 octobre 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Peut-on avoir le titre, pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole grossièrement, avoir le titre du livre de Caroline Parmentier et le nom de l'éditeur et le prix et tout?
Alors c'est journaliste, on le commande à Difra Livre et il coûte 100 francs.
L'adresse de Difra Livre, vous l'avez en tête, non?
Alors attendez, c'est Maul, on la trouve.
Ah bah oui, Maul, 78 Maul. M-E-A-U.
M-A-U.
M-A-U.
L-E.
Pardon.
Je savais que j'aurais lu.
M-A-U-L-E. 78. Puis si on ne trouve pas, on téléphone à...
De toute façon, voilà.
Téléphone en présent.
Par présent, on a tout ce qu'on veut.
On peut même peut-être donner le numéro de téléphone de présent.
Oui, alors c'est le 42 97 51 30 précédé du 01.
42 97
51 30.
51 30. 42 97 51 30. Allô, Beketch à l'appareil, est-ce que Sanders c'est là? Ne quittez pas. Bien, alors, je me tourne maintenant vers...
Y a-t-il un dîner de la mère agitée ce soir?
Non, il n'y a pas de dîner de la mère agitée en ce moment pour des raisons que je vais dire tout de suite, puisque si ma petite femme, que j'embrasse d'ailleurs, n'est pas parmi nous ce soir, c'est parce qu'elle a eu un deuil dans sa famille et on s'abstient de sortir pendant quelques temps, on fait comme dans la tradition, quoi. Qu'est-ce que j'étais pour dire? Oui, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas avec le pasteur ce soir et Claude. Claude et non pas Jean-Claude. Alors, pasteur Blanchard, Claude Heinz, je vous ai demandé de venir pour faire un point sur les activités de cette chose à laquelle vous avez donné le nom bizarre d'ICAF Social et qui, en réalité, est une œuvre qui vient en aide au SDF par des soupes organisées deux fois par semaine à Paris.
Oui, on vit une époque formidable parce que lundi, j'avais la radio suédoise, jeudi dernier, j'avais les Norvégiens. J'ai vu défiler toute l'Europe devant Saint-Lazare, j'ai eu la télévision allemande, la radio allemande, les Italiens, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais et les Français, malheureusement, en dehors de la presse amie, bien sûr, c'est la censure totale. Effectivement, on fait du bien et on peut pas dire du bien des gens du Front National quand ils font du bien. C'est insupportable. Par principe, pour nos adversaires, le Front National ne peut pas faire de bien. Donc, cette campagne continue. On nous donnait aussi un mois de campagne, on y est depuis 3 mois, et ça marche, il y a beaucoup de monde. Alors, je voudrais dire certains points, parce que les gens viennent des fois trop tard. On s'est aperçu qu'on restait pas aussi longtemps qu'on le souhaitait devant la gare Saint-Lazare. Les SDF, les exclus, les gens dans la difficulté sont là à
18h30. Les clochards, pourquoi pas dire les clochards?
Les clochards,
C'est joli comme mot, les clochards.
Ils sont là à partir de 18h30, ils commencent à faire la queue à partir de 18h30. Pour une raison précise, c'est qu'après ils vont dans les centres d'hébergement. Et donc il ne faut pas qu'ils partent trop tard pour pouvoir aller dans les centres d'hébergement sous peine de trouver porte fermée. Donc aux alentours de 19h45, 20h, les 4/5 sont partis. Et si vous voulez venir devant la gare Saint-Lazare, ne venez pas trop tard. Si vous arrivez à 19h45, il n'y a plus grand monde. Je voudrais dire aussi qu'il y a toujours autant de visiteurs du Front National. C'est le lieu où on cause à Paris, c'est très convivial. Lundi dernier, il y a un SDF qui m'a avoué que même quand il n'avait pas envie de manger la soupe, il venait devant Saint-Lazare parce que c'est sympathique, on discutait, il y a beaucoup de gens. Et beaucoup nous ont avoué qu'ils nous préféraient à nous qu'à l'Armée du Salut ou Emmaüs, où parfois c'est un petit peu l'usine où on les traite un petit peu par-dessus la jambe.
Ah, donc, nous, on bavarde avec eux.
Oui, on bavarde et on les accepte, on est très convivial. Donc, il y a aussi la distribution de vêtements. On a des vêtements. La difficulté par rapport aux vêtements, c'est qu'on a 3/4 d'hommes pour 1/4 de femmes. Et dans les vêtements, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a 3/4 de vêtements de femmes pour 1/4 de vêtements d'hommes. Et au niveau des vêtements d'hommes, on a du mal à tenir le stock, puisque je distribue entre 7 ou 8 cartons de vêtements chaque lundi et chaque jeudi. Ça part très très vite. Donc s'il y a des... Bien sûr, on accepte... Je sais pas. Il y a des familles entières. Ah, écoutez, j'aurais pas posé la question, mais je sais pas. Enfin, même si, écoutez, Serge, ils les revendent et que ça les aide un peu à vivre, à la limite. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Non, mais je sais que par contre, effectivement, on a du mal à avoir des vêtements d'hommes et on n'arrive pas à pourvoir. Alors, il faut aussi préciser que nous sommes à la recherche d'un local pour tout stocker, parce qu'au paquebot, c'est très difficile. On stocke les vêtements d'un côté, la nourriture de l'autre. On passe son temps à tourner dans le paquebot parce que c'est très grand. Donc, si quelqu'un avait un local dans la région parisienne ou sur Paris, même un hangar où on puisse stocker les choses et avoir tout au même endroit, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, nous écrire au siège du Front National, 4 rue Vauguyon, c'est quelque chose qui serait bien pour l'avenir. Alors, on va parler tout à l'heure aussi du repas que nous faisons le 1er février pour collecter des fonds. Jusqu'à présent, nous avons tenu sans demander un centime au mouvement. On en discutait avec Serge il n'y a pas tellement longtemps.
Mais grâce... c'est un sujet de conversation avec Serge. Tant qu'on lui demande pas d'argent, tout va bien.
Grâce à vos dons, vous vous souvenez de Libération qui disait « Ah, ils ont pas beaucoup d'argent, ils vont pas passer Noël ». Eh bien, grâce à votre générosité...
C'est-à-dire que nous, on n'a pas les banques...
On est encore là.
Hein, oui, voilà. Ouais. Mais évitez de dire une bêtise. Merci, Pasteur.
On est encore là. Donc, on organise un repas justement pour collecter des fonds le 1er février au paquebot, au 15 rue d'Antan à Saint-Cloud, au siège du Front National. Ce repas sera sous la présidence de Jean-Marie et de Jeannie Le Pen. Et si nous sommes venus ce soir, et on devait venir avec Madame de Becquet, il y aura un communiqué qui sera lu d'elle tout à l'heure, c'est que pour l'instant, nous avons peu d'inscrits. Alors, nous avons besoin de vous, parce que ce repas n'est pas un repas comme les autres, c'est pas un repas où on va faire des mondanités, c'est un repas pour collecter des fonds pour la campagne que nous sommes en train de mener et pour les campagnes prochaines. Ça nous servira à continuer cette campagne et ça nous servira à entreprendre d'autres campagnes que nous sommes en train de mettre sur pied.
Donc on va très mal manger et ça va être très cher.
Mais non, c'est soit alors, pardon, pas du tout. Cassoulet à la mode de l'Aude, Cave et bar à vin de France.
Alors je vais vous dire, justement on a mis les prix très bas pour que tout le monde puisse venir. On a mis les prix très bas, donc ça sera 90 francs. Envoyez vos chèques à l'ICAF Social, 4 rue Vauguyon, 92 210 Saint-Cloud.
Et on n'est pas obligé de manger.
Oui, alors, vous, si vous venez pour le repas, donc pour la soirée musicale, vous pouvez vous inscrire. Et par contre, si vous avez des dons que vous souhaitez pas venir, vous pouvez aussi les envoyer à la même adresse. Je vous signale aussi, on en parlera, qu'il y aura une tombola qui sera organisée par quelqu'un, je sais qu'il va nous faire rentrer des fonds parce qu'on en a besoin, qui s'appelle Monsieur Serge de Becquet. Cette tombola est animée et organisée par Daniel et Serge de Becquet, puisque c'était Daniel qui, à l'origine, s'occupait de l'organisation de la tombola. Et elle m'a demandé, est-ce que Serge, parce qu'il a le charisme, et j'ai dit effectivement, il est l'homme par excellence pour animer la tombola.
Tous les tombolas au profit des organisateurs de tombola.
Il est l'homme pour nous faire rentrer des fonds. Donc, ça sera animé par Serge. Donc, venez très nombreux. Alors, avant de laisser la place à mon coordinateur général qui va donc vous faire lire le communiqué de Madame de Becquet, qui est la chargée de communication d'ICAP Social, je voudrais vous dire que notre campagne devant Saint-Lazare se terminera le lundi 7 avril avec une conférence de presse du président Le Pen et de moi-même, comme la première. Nous avons, comme j'avais dit la fois précédente, renoncé à une seconde gare. Pour l'instant, c'est une trop lourde infrastructure. C'est trop coûteux et puis on n'est pas sûr d'avoir une seconde équipe pour gérer cette seconde gare pendant toute la campagne. Mais nous sommes en train de construire un projet qui commencera après le 7 avril, un projet qui s'adressera aux SDF, aux exclus encore du Front National, aux RMistes, aux familles en difficulté. Ce projet est simple, tous les 15 jours, nous affréterons des cars et nous irons dans des espaces aménagés de la banlieue parisienne, leur offrir une journée. Donc, les fonds que nous recueillerons pendant cette campagne serviront aux campagnes suivantes. Et bien sûr, l'hiver prochain, nous recommencerons la campagne de soupe de nuit. Alors, je laisse maintenant la parole à Claude Hens, qui va vous lire le communiqué de Madame de Becquet.
Ça oui. Va être intéressant, une lecture d'un communiqué.
Oh, ça va être surtout dit avec beaucoup de cœur, comme l'aurait souhaité Danielle, si elle avait pu être présente ce soir autour de cette table et avec tous nos amis. Nous organisons le 1er février un dîner dansant en faveur des plus démunis organisé par l'ICAF Social. 200 couverts, nous dit Daniel, seront prévus. Dépêchez-vous de vous inscrire, nous avons besoin de votre présence. Il est inadmissible, en effet, qu'à l'heure actuelle, il y ait autant de personnes dormant la nuit dans les rues, n'ayant ni de quoi se loger, ni de quoi se nourrir, ni de quoi se vêtir. Ces personnes sont nos frères français. Faites un geste. Tendez-leur la main, puisque l'Église a démissionné et que l'État ne remplit plus ses devoirs.
Ça m'aurait étonné qu'on n'en profite pas pour dire du mal des curés.
Nous devons nous sentir plus que jamais tous concernés par toute cette misère. Nous faisons ce que nous pouvons, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Alors faites un effort, venez nombreux. C'est un acte de charité et de plus, ce sera très sympathique, puisque vous le savez, Jeannie Le Pen sera présente en tant que dame d'honneur, accompagnée, nous dit Daniel de Bekech, de son menhir de mari. Et elle nous précise entre parenthèses, pardon Jean-Marie. Il y aura également d'autres personnalités et, bien sûr, Serge de Bekech.
Ah oui, ça, c'est inventé. La tombola géante.
Qui s'occupera de la tombola géante. Alors, merci à tous d'être à l'écoute et que Dieu vous garde, signé Daniel de Bekech. Il est bien évident notre secrétaire général, Laurence de Campignol, et notre trésorier, Jean-Jacques Mazella, s'associent bien évidemment à ces quelques lignes qui s'adresse à tous les auditrices et à tous les auditeurs et qui nous vont droit au cœur. Je précise également que, et ça c'est un projet que j'envisage, mais peut-être plus en tant qu'élu municipal. Et si tu veux bien Serge, j'en dirai quelques mots.
Mais vite, parce que l'ami, je commence à armer ses canons là.
Voilà, alors en 30 secondes, là, c'est un projet que j'envisage pour l'hiver prochain, 97-98, de commencer à décentraliser un peu cette opération que nous menons Gare Saint-Lazare. Alors d'ores et déjà, et parce que c'est une structure très lourde et qu'il faut beaucoup de fonds pour mener une telle opération, toutes les personnes, puisque je suis conseiller municipal de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, toutes ces personnes qui souhaitent effectivement faire des fonds peuvent l'adresser à notre mandataire financier, à notre section locale, à Roissy-en-Brie, à boîte postale 77-680 Roissy-en-Brie. Boîte postale 77-680 Roissy-en-Brie, pour que nous puissions commencer d'ores et déjà à récolter des fonds pour lancer cette opération décentralisée de repas chauds pour les SDF. Merci à toutes et à tous.
Merci, Pasteur Blanchard, merci. Le numéro de téléphone, il faut le rappeler.
Alors, 01-41-12-10-62, et il y a un répondeur, donc maintenant, si je ne suis pas là, il y a un répondeur. Autrement, c'est le 10-87, 01-41-12-10-87. Inscrivez-vous, c'est très important pour le 1er février. Pas pour nous, mais pour les Français démunis et défavorisés.
Merci.
La manifestation du docteur Dord ce samedi au Lila a-t-elle toujours lieu?
Ben oui, puisqu'il est venu l'annoncer la semaine dernière. Bon.
Alors je vous dis que jeudi 23 janvier, merci, décision concernant, le délibéré concernant Brigitte Bardot, c'est rendez-vous à 13h devant la 17e chambre du tribunal de commerce si vous voulez la soutenir. Il y a la société de placement et de secours en faveur des élèves et anciens élèves de l'Institut national des jeunes aveugles organise le jeudi 23 janvier à 20h45 un concert salle André Marchal à l'Institut national des jeunes aveugles dans le 7e. Œuvre de Mozart, Beethoven, Ravel, prix des places 80 francs, adhérents 40 francs, étudiants 40 francs. Mardi 28 janvier, Paris, Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique à Paris 7e, Institut français d'action culturelle, 20h30, Jean-Marie Le Pen présentera le nouveau cycle de conférences pour l'année 97, les grandes crises françaises et les idéologies destructrices.
Merci. Un dernier mot. Comme apparemment on n'a pas très très bien compris sur cette radio ce qu'était l'affaire Maud Marin, je ne peux que recommander la lecture d'un excellent journal qui s'appelle Le Libre Journal de la France Courtoise, 139 boulevard de Magenta, 75-010 Paris, qui publie cette semaine un papier sur la véritable affaire Maud Marin, qui est un scandale invraisemblable de persécution par la police de la pensée.
Et puis il faut acheter son livre.
Il faut acheter son livre aussi, et ça, bon, qu'on s'adresse au Libre Journal. 139 boulevard de Magenta, 75-010 Paris.
Et un dernier mot, j'ai un message pour l'auditeur qui me persécute. Quand j'achète une tarte aux pommes, la boulangère ne me dit pas que je lui dois 7,30 francs. Elle me dit 7 francs 30. Elle a raison, et moi aussi. Au revoir, monsieur.
C'est un vieux débat, ça va durer encore quelques années. Merci. Bonne semaine, que Dieu nous garde. Thank you.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie. Alors là, ce soir, vraiment extrêmement amputé. Mais enfin, bon, on va quand même essayer, contre mauvaise fortune, de faire bon cœur. Puisque nous sommes encore dans cette période de janvier propice aux vœux et aux épanchements du cœur. Alors ce soir, pour faire très bref, je vais avoir deux invités, en fait j'ai trois invités, d'où ma panique. Comment est-ce que chacun va avoir suffisamment de temps pour exprimer tout ce qu'il a à exprimer? Ben, j'ai le plaisir de recevoir d'abord, dans l'ordre de passage à l'antenne, si vous le voulez bien, et puis d'abord, le clergé était autrefois le premier ordre du royaume, donc tout lui est dû. Je reçois Mgr Gilles Vac, qui est supérieur général de l'Institut du Christ au Roi Souverain Prêtre, que nos amis connaissent bien puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises s'exprimer sur cette antenne, et puis de nombreux prêtres aussi de son institut sont venus. Il vient, je lui demander de venir, d'abord pour le plaisir de le revoir, et puis de le plaisir aussi de nos auditeurs, et aussi pour nous dire, donner un petit témoignage, puisque nous sommes aujourd'hui le 22 janvier, bien sûr pour les auditeurs qui nous écouteront demain matin, nous serons déjà le 23, c'est-à-dire nous sommes en quelque sorte dans l'octave de l'anniversaire de la mort de Louis XVI, c'était cette année le 204e anniversaire de son assassinat, et... J'aurais souhaité qu'un prêtre catholique, nous explique et nous dise s'il est encore licite de prier pour l'âme de Louis XVI ou bien si c'est une chose que l'Église désormais interdit. Parce que j'aurais quelques petits commentaires à faire sur cette question tout à l'heure. Et puis nous recevons également Jean-Joseph Millet, qui est chargé de mission aux archives des Yvelines et qui est le commissaire d'une exposition absolument époustouflante. Alors je sais que c'est une expression qu'on aime beaucoup ici, que j'affectionne infiniment, sur le cadastre de Berthier de Souvigny, qui se tient actuellement à la Grande Écurie du Roi, côté du château de Versailles, c'est vraiment pas compliqué pour retrouver. Et puis nous recevons également René Messougla, qui nous fait l'amitié de revenir nous voir, qui était déjà venu nous voir il y a quelques mois, peut-être 2-3 mois. Elle vient nous parler, c'est une universitaire, c'est une historienne spécialiste du Haut Moyen-Âge, qu'on appellera le Haut Moyen-Âge, cette période qui était autrefois très peu connue, mais qui, grâce un peu à la commémoration du 15e centenaire du baptême du roi Clovis, est devenue un peu plus connue de nos contemporains. Et elle vient nous entretenir d'une édition, précisément, d'un livre sur Clovis, encore un, me diront les auditeurs, oui, mais celui-là est très intéressant, vous verrez pourquoi tout à l'heure, qui vient de paraître dans la collection Que sais-je. Alors, sur Clovis, juste une petite parenthèse, puisque je regardais avant de venir dans cette émission ma bibliothèque, mon bureau, où s'accumulent les livres sur Clovis, autour de Clovis, les méditations sur Clovis, les leçons de Clovis, les bandes dessinées Clovis, les fascicules à colorier pour les enfants. Il y a eu, je pense, 45 ou 50 volumes qui ont paru cette année, en langue française, en tous les cas, sur Clovis. Et bien, je vais vous dire, je trouve ça extrêmement encourageant. Enfin, c'est un avis personnel que je ne vous oblige pas à partager. En tout cas, il est sorti plus de livres sur Clovis que sur UCAPE, quand on a fêté le millénaire de l'avènement du UCAPE. C'est très curieux, il en était sorti quand même un certain nombre, et de fort bons, mais là, il y a vraiment une espèce d'explosion éditoriale.
Grâce à nos adversaires.
Sur Clovis. Je pense que c'est un peu grâce à nos adversaires, aussi sur le fait que la période était, sans doute la période du UCAPE était peu connue, mais celle de Clovis l'était encore moins. Alors grâce à tous ces savants, ou à ces vulgarisateurs de talent, puisqu'il y a aussi des vulgarisateurs dans le lot, il faut les remercier, ils font aussi leur travail, eh bien nous avons, je pense maintenant, une idée un peu plus précise de ce qu'a été ce grand roi, ce jeune et grand roi, qui s'appelait Clodoveig, parlant sans sous-titrer, alors en sous-titre ça fait Clovis, et qui, par lui, a fait que commence une aventure extraordinaire, une aventure qui s'appelle la France, et cette aventure, bien sûr, naît, comme il est d'usage, dans un baptême. Alors c'est à propos d'un baptême que je me tourne vers Mgr Vac, je ne vais pas lui faire parler du baptême, encore qu'il serait capable de nous exprimer bien des choses sur le baptême, mais le Saint-Père à Reims nous a donné une grande homélie, grande leçon sur le baptême. Mais nous n'allons pas parler du Saint-Père tout de suite, en tout cas pas de notre Saint-Père actuel, pas de Jean-Paul II. Nous pourrions peut-être parler d'un autre pape qui lui a parlé de Louis XVI. Et si je souhaitais que l'on parle de Louis XVI aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on n'en a pas parlé hier sur Radio Courtoisie, ce qui est très très bien, parce qu'il faut toujours rappeler cet événement, qui est un événement d'une portée considérable. La mort de Louis XVI est un événement qui non seulement va avoir des effets immédiats et énormes pour la France, mais on peut dire pour l'Europe et pour le monde, parce que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on n'avait pas décapité Louis XVI. C'est encore une opinion personnelle que je ne vous oblige pas de partager, mais en fait c'est mon opinion. Alors, Il y a eu beaucoup de messes qui ont été célébrées pour Louis XVI au cours de cette période qui va à peu près du 18 janvier jusqu'au 25 janvier, puisque les gens, en fonction du lieu où ils habitent, bon, essayent de réunir un certain nombre de personnes. Moi, j'en ai recensé sans doute 120 ou 130 messes différentes qui ont eu lieu en France. Et puis, de nombreuses messes ont été d'ailleurs dites à l'étranger. J'ai reçu une télécopie il y a très peu de jours des États-Unis où une association d'amitié franco-américaine faisait célébrer deux messes, une à New York et une dans le Colorado, en mémoire de Louis XVI. Et je sais qu'il s'en célèbre à peu près partout. Et d'ailleurs, Monseigneur, je crois qu'il s'en célébrait. Il s'en est célébré une dans votre maison généraliste, qui est aussi votre séminaire, qui est à Gricigliano, dans cette magnifique Toscane que je trouve si française d'aller. Quoi qu'italienne. Vous avez aussi fait célébrer...
Oui, comme tous les uns d'ailleurs. Mais je voudrais répondre à votre question. Est-ce bien utile aujourd'hui encore de dire des messes pour ou de prier pour Louis XVI? Eh bien, si nous prenons le discours du pape, successeur de Saint-Pierre, du pape Pie VI et un prédécesseur de Jean-Paul II, au consistoire du mois de juin qui a suivi janvier 93 l'assassinat du roi, eh bien lui-même se pose la question lorsqu'il invite les cardinaux à la fonction, à la cérémonie papale à Saint-Pierre pour le repos de l'âme de Louis XVI, étant donné que tout ce qu'il vient de dire sur le roi, ce n'est pas une canonisation, mais il indique clairement comme pape que ce roi est mort martyr en haine de la foi. C'est pourquoi il se demande si c'est bien utile de prier pour lui, étant donné qu'il peut plutôt intercéder pour nous. Mais il n'empêche qu'il l'a fait, et que à sa suite, nous, chrétiens, français, eh bien nous prions pour Louis XVI, et surtout, je vous avouerai, je crois que nous prions pour la France, qui a bien besoin des d'intercessions, notamment de Louis XVI et des innombrables martyrs de la Révolution dite française. À Gricigliano, bien sûr, nous avons célébré une grande messe de Requiem, comme tous les ans, pour Louis XVI. Je vous avouerai que nous étions moins nombreux que les autres années, à cause d'une grippe terrible dont je sors moi-même depuis seulement deux jours. Et nous avons la moitié du séminaire presque qui est au lit. Mais enfin, nous avons quand même pu chanter une messe solennelle avec diacre et sous-diacre, et ce qui pouvait rester de la chorale pour la messe de Requiem. Et ce qui m'a frappé, voyez-vous, c'est que tous les ans nous célébrons cette messe de Requiem pour le roi Louis XVI, et comme vous le savez, le séminaire de Gricigliano est un séminaire international. Eh bien, tous nos prêtres ou tous les séminaristes, de quelque nation qu'ils soient, eh bien, s'unissent avec nous, parce que la portée de l'assassinat du roi Louis XVI dépasse bien évidemment la France. Et avec la mort du roi Louis XVI, c'est le début de la révolution, non seulement en France, mais partout, et du déferlement d'une haine antichrétienne, anticatholique, un peu partout. Et ce que prévoyait Pie VI dans son discours au consistoire, eh bien, malheureusement, c'est avéré bien juste, que ses idées se sont répandues un peu partout. Il ne se doutait pas, d'ailleurs, qu'il serait lui-même victime de la révolution, puisqu'il est mort en exil en France, et qu'on a annoncé, son culotte a annoncé que c'était le dernier pape. Mais il oubliait que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité, avait enseigné, d'une façon infaillible et certaine, puisqu'il est Dieu, eh bien, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre la Sainte Église. Donc après le pauvre pape Pie VI, nous avons eu le pape Pie VII, qui a eu d'ailleurs aussi beaucoup à souffrir d'un fils de la révolution en la personne de Buonaparte. Et puis ce qui m'a frappé dans ces célébrations de messe, c'est que tous les ans, nous sommes de plus en plus demandés pour que des prêtres de notre institut, nous en avons 25 maintenant, eh bien, célèbrent là, ailleurs, un peu partout, des messes, et à l'étranger également, pour Louis XVI. Je crois que tout le monde comprend que, en-delà de la mort et de l'assassinat du roi Louis XVI, eh bien, il y a là un acte posé par, malheureusement, mais il faut le dire, les fils des ténèbres, par les fils de la Révolution, contre l'ordre chrétien qui n'est autre que la charité. Car je crois que bientôt nous pourrons fêter les 2000 ans de christianisme, dont nous sommes très fiers, et je vous dirais, 2000 ans de christianisme, ça veut dire que l'amour, la charité a 2000 ans. Et c'est vraiment la charité du Christ qui s'est répandue. Et la révolution, eh bien, c'est le non serviam de Lucifer. C'est celui qui refuse l'amour de Dieu, la charité de Dieu par orgueil. Et le roi Louis XVI était un grand gêneur. Il aurait accepté, comme d'autres rois, peut-être, dans d'autres nations, accepté des compromissions avec la révolution pour se maintenir quelque temps encore sur leur trône. Eh bien, le roi Louis XVI ne pouvait accepter cela. Et il était roi très chrétien, il est mort comme un saint, d'une façon très chrétienne, et il ne pouvait accepter de ne pas être fils de l'Église catholique. Il suffit de relire son testament, qui était admirable. Sachez que tous les ans, au séminaire à Crescigliano, nous lisons le midi le testament de Louis XVI, et le soir au réfectoire, puisque nous avons la lecture au réfectoire, le discours de Pie VI au consistoire. Et pour nous, c'est une grande importance à ces jeunes, qui d'ailleurs sont unanimes pour cette commémoration de la mort de Louis XVI, eh bien, de penser aux mots qui se sont abattus sur la France. Et je crois que je ne ferai de révélation à personne en disant que nous continuons de vivre sur ces tristes avatars de la Révolution française.
Alors, ce que vous dites est très intéressant, puisque je dirais que Louis XVI est à peu près le seul personnage historique, si je me trompe, vous m'arrêtez, et bien évidemment je vous y invite, dont on continue à commémorer la mort. Je parle bien sûr d'un roi, je ne parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ, lui on commémore tous les jours, mais dont on continue, c'est le seul personnage historique, me semble-t-il, dont on continue à commémorer la mort chaque année depuis 204 ans. Je trouve ça tout à fait troublant. Et c'est pas deux, trois personnes. Non. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de personnes, je parle uniquement pour la France, qui chaque année, à pareille date, se réunissent dans leurs chapelles, dans leurs églises, parfois avec l'autorisation de l'autorité, parfois sans l'autorisation de l'autorité religieuse, pour prier pour Louis XVI. Et on l'a vu encore à Paris, puisqu'il y a eu deux messes qui ont été célébrées, enfin une à Paris, une en Seine-Saint-Denis, évidemment. Il y en a une, par exemple, à la chapelle expiatoire, qui est une messe assez traditionnelle, aussi dans un lieu chargé de mémoire et bien émouvant. Bon, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient là. D'ailleurs, la messe a été célébrée par un de vos prêtres. C'était l'abbé qui est venu ici, on peut dire son nom.
Monsieur
l'abbé Audin, donc, il est venu ici, d'ailleurs, nous entretient sur Radio Courtoisie il y a quelques mois. Quelques jours plus tard, le 21, donc, c'était le service traditionnel du Mémorial de France à Saint-Denis, en la Basilique Royale de Saint-Denis. Il y avait plus de 1000 personnes. Mmh. C'est une chose, je sais que ça a beaucoup surpris l'archiprêtre, le nouvel archiprêtre de la basilique de Saint-Denis, qui, évidemment, n'a pas l'habitude de voir tant de personnes pour des messes. Hélas, hein, raréfaction des fidèles, vous connaissez ça, c'est un drame épouvantable. Mais donc, il a été un peu choqué de voir tout ce peuple assemblé, et il a même dit que c'était une manifestation, avec peut-être un petit peu de réprobation dans l'expression. C'est une manifestation. Or, nous commémorons depuis 204 ans, nous manifestons en quelque sorte quelque chose, d'abord parce qu'il est absolument licite pour des chrétiens de prier pour l'âme de ceux des frères qui nous ont précédés, n'est-ce pas, dans la lumière ou au jugement en tous les cas. Donc une messe est toujours la manifestation de quelque chose. Et puis je crois que les seules années où on n'a pas célébré en France de messe à la mémoire de Louis XVI, je crois que c'est pendant l'occupation allemande. Vous m'arrêtez si je me trompe. J'ai le sentiment qu'entre 40 et 45, l'occupant n'était pas très très désireux de voir commémorer la messe de sa femme. Enfin, vous m'arrêtez, mais je dis peut-être une bêtise, mais si nos auditeurs en savent davantage, moi, il y a peut-être des personnes parmi nos auditeurs qui ont vécu les heures les plus noires de notre histoire. Est-ce qu'ils se souviennent, est-ce qu'il y avait des services à Saint-Denis pour Louis XVI le 21 janvier? J'en suis pas très sûr, mais s'ils veulent bien nous téléphoner, ce serait très gentil. Ils peuvent nous appeler bien sûr au 01 46 51 0085, puisqu'ils ont le bonheur d'écouter Radio Courtoisie. Monseigneur, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, pourquoi disiez-vous on commémore, eh bien, toujours la mort de Louis XVI? Parce que il faut se rappeler que la France est mère éducatrice des peuples, comme l'ont rappelé si souvent de très nombreux papes. Et par conséquent, en abattant le roi chrétien, en tuant le roi chrétien, l'ordre chrétien, la France, fille aînée de l'Église, ont touché ainsi toute l'Europe chrétienne, c'est-à-dire tout le monde, toute la civilisation chrétienne, la civilisation tout court. Et aujourd'hui, je crois que, à la suite de l'enseignement d'un mon maître, le cardinal Siri, il disait que, eh bien, le retour de la chrétienté viendra par la France. Et donc de voir que de très nombreux, plus nombreux Français...
C'est pas pour tout de suite, alors, hein?
Non, bien qu'il y a quand même une saine réaction et que...
Non, je plaisantais, c'est un mot méchant qui me vient du Prince des Ténèbres, qui vient pas de l'Esprit Saint. Mais vraiment, non, non, on a senti cette année, enfin l'année passée, on a senti quand même quelque chose qui était en train de vibrer dans ce pays, c'est clair.
Il suffit de voir les foules autour du pape à Reims.
Ça, c'est incroyable.
Qui n'étaient pas pensées par certaines autorités. Oui, et nous avons eu là énormément de fidèles chrétiens.
Ils ont manqué de foi, d'espérance et un peu de charité aussi.
Qui ont voulu manifester qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont attachés à l'église de Pierre, et que quoi qu'il arrive, car les temps sont tristes et l'avenir est sombre, eh bien, c'est là leur foi et leur espérance. Et nous savons que c'est de cette foi chrétienne, de cette foi qu'avait le roi Louis XVI, que pourra renaître la France, et la France pourra de nouveau être mère et éducatrice des peuples. Et ça, nous n'en doutons pas, et nous voyons nos séminaristes de toute nationalité, comme je vous le disais, eh bien, très attachés à cette commémoration, parce qu'ils savent que si la France se relève, eh bien, l'Europe peut se relever également. Et c'est pourquoi nos ennemis ne veulent pas, depuis deux siècles, que la France se relève.
Je crois que c'est assez bien analysé. C'est quand même assez bien analysé. Enfin, donc ceci c'est pour vous redonner un petit peu de confiance, amis auditeurs, à savoir que vous pouvez tout à fait licitement, le 21 janvier, ou la veille, ou le lendemain, vous associer à une messe pour Louis XVI et prier à cette occasion pour l'âme du roi, si elle en a besoin. En tout cas, on n'a pas à préjuger, on peut toujours prier, c'est pas perdu, hein, comme
on
est saint.
Il
peut intercéder aussi pour nous, et puis il peut aussi prier pour la France, ça fait pas de mal. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Millier?
Je voulais ajouter apporter un correctif à ce que vous venez de dire, en ce qui concerne le seul personnage de notre histoire que l'on célèbre à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, il faut que je vous précise que tous les ans, le 5 mai, une messe est dite à la mémoire de Napoléon. Cette cérémonie a lieu in situ aux Invalides. Et sur l'ensemble du territoire national, nous avons un certain nombre de célébrations.
Mais ça fait pas 204 ans.
Qui ont lieu, qui ont lieu, c'est même 5 heures. Nous sommes tout à fait d'accord, mais je réponds à la première partie de votre
question que je posais tout à l'heure.
Il y a un deuxième personnage que nous honorons, qui est honoré, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Et on associe à l'occasion de cet office. On associe tous les morts pour la France, bien entendu. Donc ça n'a pas le même impact, le même caractère, mais je crois qu'il fallait que je le précise.
Très bien. Surtout, parlez bien devant le micro. D'ailleurs, monsieur Millet, je vous demandais de vous mettre en face de moi. Okay. Ça va être beaucoup plus pratique. Vous serez mieux dans le fauteuil que sur cette chaise. Et comme ça, vous serez à la bonne hauteur pour parler dans le micro. Sans quoi, les micros sont très sensibles. Et si on n'est pas le nez dessus, quasiment, les auditeurs n'entendent pas. Alors, d'autres auditrices, bien sûr, et auditeurs m'envoient des messages. Je veux dire qu'il y en avait d'autres qui étaient célébrés, effectivement. Il y avait à Saint-Eugène, à Paris. Il y avait à Saint-Nicolas du Chardonnay. Il y avait à Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, à Paris, il y avait énormément de messes. Voilà. Alors, bien, nous allons terminer ici. J'aimerais quand même que vous me disiez où peut-on joindre l'Institut.
Eh bien, nous avons une adresse à Paris.
Alors, c'est le plus pratique.
25 avenue de Lamballe, dans le 16e, où vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 01 40 50 88 05.
Alors, on va redire tout ça tranquillement. Donc, l'Institut du Christ-Roi a une adresse à Paris.
Oui.
C'est le 25 avenue de Lamballe, Paris 16e. Et on peut vous joindre au téléphone 01
40 50 88 05.
Voilà. Donc, c'est une maison de formation. Enfin, c'est un séminaire.
Ah ben, oui, ça, c'est notre adresse parisienne. Voilà. Mais pour notre maison est à Florence, où vous êtes d'ailleurs invités à venir nous rendre visite. Nous avons beaucoup d'amis de Radio Courtoisie qui sont venus. Et nous avons toujours grande joie à les recevoir. Donc, notre maison généraliste, qui est aussi notre séminaire, est à la Villa Martelli, du nom d'une grande famille de Florence. Villa Martelli, à Via di Griciliano, Griciliano, numéro 52, après 569...
Enfin, 50 069.
Oui, Sieci, S-I-E-C-I, Firenze, Florence, voilà. Italie. Donc. Et le téléphone, si vous voulez nous appeler, 55 830 96 22. Et comme je vous le disais, nous serons heureux de vous accueillir dans notre famille de Griciliano, où vous pourrez passer quelques jours en Toscane, prier avec nous, rencontrer les séminaristes et voir qu'il y a de nombreuses vocations françaises qui se préparent à devenir demain, je le souhaite, de bons prêtres pour reformer la France chrétienne.
C'est un programme magnifique. Mais alors, pour cela, vous avez d'ailleurs des maisons en dehors de l'Italie.
Alors, nous sommes sur... Oui, nous sommes maintenant sur trois continents.
Vous êtes une multinationale, en fait.
Un modeste institut. Nous avons des missions en Afrique. Nous avons maintenant deux grandes maisons aux États-Unis. Et là, je pars après-demain à Salzbourg, puisque nous avons aussi une maison en Allemagne. Et un de nos prêtres va être ordonné par l'archevêque de Salzbourg, donc là en Autriche, par l'archevêque lui-même, dimanche prochain. Il sera prêtre pour l'éternité. Et puis nous avons aussi une maison en Espagne, à Madrid. Et en Italie, nous sommes, eh bien, Florence, évidemment, Sienne et Rome.
C'est extraordinaire. Alors là, vous faites une revue qui est absolument, un bulletin qui est absolument magnifique, qui est superbe, toujours très bien illustré avec des textes de haute portée spirituelle, vous vraiment très faire... agréable à lire. Et puis alors vous avez édité un disque.
Alors un compact disque de chants grégoriens, notamment la messe du beau. Christ roi.
Oui, qui est superbe.
Et puis aussi une cassette vidéo qui vous donne une idée de la vie quotidienne au séminaire, depuis le lever, les laudes, et jusqu'au compli, coucher, en passant par la messe, les cours, les différentes charges dans la maison, puisque nous nous occupons nous-mêmes de l'entretien de la maison, du linge, du jardin, du pain, nous faisons notre pain, nous faisons aussi notre vin, du Chianti, qui n'est pas mauvais, au dire de nos amis, de l'huile d'olive. Nous avons fait 10 000 litres de vin cette année, vous voyez, aux dernières vendanges, de l'huile d'olive, enfin voilà, nous nous occupons d'une villa en Toscane, donc nous avons aussi en dehors du travail intellectuel et surtout de la prière, eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Moi, j'aimerais bien travailler la vigne, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, plutôt dans la phase terminale, vous voyez, de la vinification. Là, c'est... pas besoin d'un goûteur, là-bas, un professionnel, un vrai professionnel, alors.
Vous pouvez venir,
spécialiste. Oui. Alors, si vous voulez, amis auditeurs, si vous souhaitez aider l'Institut du Christ-Roi, dont vous voyez, c'est presque ce qu'a dit Mgr Vey, qui n'est pas totalement contaminé par le bolchevisme, donc vous pouvez écrire à l'Institut du Christ-Roi, 25 avenue de Lamballe, Paris 16e. Vos lettres seront répandues et évidemment, vos dons seront appréciés.
Et vous pouvez commander les cassettes vidéo,
voilà, alors on vous donnera,
ce qui vous donnera une idée de la Villa Martelli.
Merci Monseigneur. Vous restez avec nous parce qu'on va parler encore quelque chose.
Avec plaisir,
je suis sûr vous
très
intéresser.
Heureux de l'entendre.
Alors nous recevons, donc nous ne faisons pas de transition musicale parce que là quand même l'heure tourne et il faut quand même que chacun puisse s'exprimer. Monsieur Simon avait un commentaire à faire derrière sa classe. Il n'y a pas de musique de prêtre, de toute façon, dit-il. Non, parce qu'on n'a pas préparé. On n'a pas préparé la musique en tous les cas. L'autre émission est préparée, mais pas la musique. Alors, je voulais parler d'une exposition. Tout à l'heure, je disais qu'un de mes amis m'avait vivement invité à m'y rendre, la qualifiant d'époustouflante de qualité. Et c'est vrai que c'est une, d'après ce que j'en ai vu et d'après ce que j'ai là sous les yeux, c'est une exposition très intéressante et qui rentre parfaitement dans le cadre de cette émission et en tout cas du service que Radio Courtoisie peut apporter à ses auditeurs en faisant connaître des manifestations qui sont certes connues, mais qui méritent de l'être encore davantage. Je me suis bien fait comprendre, là.
Tout à fait.
Bon, oui. Très bien.
Merci beaucoup.
Alors, il s'agit d'une exposition dont vient nous entretenir Jean-Joseph Millet, qui est chargé de mission aux archives des Yvelines et qui est le commissaire de cette exposition. Le thème, c'est le cadastre de Berthier de Souvigny. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Millet va nous expliquer ça dans le détail. Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, peu de temps avant la Révolution, en fin de compte, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, on décide de refaire le cadastre, en fin de compte, d'un certain nombre de régions françaises, et notamment de ce qui est aujourd'hui les Yvelines, qui était autrefois, qui appartenait autrefois à ce qu'on appelait la généralité de Paris, tout simplement parce qu'il faut recalculer la base d'imposition des assujettis, comme on dit encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on utilise encore une formule d'assujettis. C'est amusant pour des citoyens. Non, bon, enfin, passons. M'excuse. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi ce cadastre a été demandé et comment s'est déroulé cet énorme travail d'arpentage, de relevé dont l'exposition nous livre tout. Toute la complexité.
Alors, il faut remonter au début de la Régence. Où les autorités du royaume songent déjà à réformer le fameux impôt sur le revenu, enfin qui ne s'appelle pas encore impôt sur le revenu, mais qu'on appelle la taille. Parce qu'on s'est rendu compte d'une part que les recettes fiscales n'étaient pas cernées d'une manière extrêmement précise, et par ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une répartition qui n'était pas forcément équitable sur l'ensemble du royaume. Alors cette réforme va durer 70 ans. C'est le duc de Noailles qui en 1716 va se pencher sur cette affaire. Et auparavant, voilà comment se passait la répartition de cet impôt. Le roi, en conseil des finances, décidait qu'il lui fallait un certain nombre de millions de livres en recettes de la taille. Ensuite, cette recette, ce chiffre était réparti sur l'ensemble des 22 généralités qui étaient les coupages administratifs du royaume. Et à l'intérieur des paroisses, il y avait une répartition par taillable qui était plus ou moins arbitraire. Alors cette situation était tout à fait perçue dès 1716. Et alors on a entamé un certain nombre de réformes. Ce que nous appelions à cette époque taille de répartition est devenue taille proportionnelle. Et alors on va mettre 10 ans. Et alors ce qui est intéressant, c'est que 70 ans. Et ce qui est intéressant au cours de ces 70 ans, c'est qu'on va voir apparaître très tôt la notion de déclaration de revenu. La notion de déclaration de revenu n'est pas une invention de la Révolution, est une invention
purement
dans
de
l'ancien régime sans conteste. Alors on situe ça aux alentours de 1720. 1720, donc il y a cette déclaration qui est faite par tout un chacun qui se trouve frappé de la taille. Ensuite, aux alentours de 1740, pour serrer au plus près la réalité des revenus détaillables, on met sur pied l'assiette, ce qu'on appellera plus tard l'assiette de l'impôt, à savoir que on détermine l'origine du revenu, le revenu de la terre, le revenu de l'industrie, le revenu de l'artisanat, etc. Et c'est un très grand progrès dans l'appréciation au plus près des réalités. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la taille proportionnelle, et ensuite on va très vite vers la taille tarifée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait forcément, jusqu'à cette période de 1770, à peu près 1770-1776, il y avait une répartition au niveau des taillables qui était, je dirais, quasiment arbitraire. Donc cette affaire qui était apparue à la Régence, hein, ressurgit, enfin sourd toujours, mais revient à la surface aux alentours de 1777.
Il y a besoin d'une grande réforme.
Tout à fait, il fallait une grande réforme, et on est au siècle des Lumières, donc tout ça bout dans la marmite, et on va aboutir à ce qu'on appelle la taille tarifée. La taille tarifée, c'est extrêmement compliqué, enfin extrêmement compliqué à la fois, compliqué et simple. En 1776, Louis XVI décide de faire cette réforme en profondeur et en utilisant les axiomes des philosophes, etc. François Quesnay interviendra également dans cette affaire. On va décider de faire, si je dis bien, de faire l'arpentage de toutes les paroisses de la généralité de Paris. La généralité de Paris se trouvera donc un laboratoire, et Louis XVI écrit dans son décret que à l'issue de cette expérience, on en corrigera les erreurs, et ensuite on étendra cette formule à l'ensemble du royaume.
Alors, juste une précision, donc ce qu'on appelle la généralité de Paris sous l'Ancien Régime, c'est à peu près l'Île-de-France aujourd'hui.
Alors, la généralité de Paris, oui, c'est à peu près, si on met en rapport l'organisation de l'Ancien Régime et puis l'organisation moderne, bon, c'est à peu près cela. À la différence que, si je peux dessiner très rapidement, c'est pas facile d'y voir la porte de la vérité, on démarre au sud d'Amiens et on va jusqu'à Vézelay, c'est-à-dire partant de Dreux, on parcourt 180 km à peu près, et on a la généralité de Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rambouillet, qui est quand même dans l'Île-de-France, n'appartient pas à la généralité de Paris, mais appartient à la généralité d'Orléans. Donc détail assez particulier. Alors pour serrer au plus près ce problème de fiscalité, on va décider donc de faire l'arpentage. Alors dans un premier temps, seul l'arpentage est fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est de connaître les superficies par paroisse et par nature de culture.
Paroisse, c'est le mot de pour
paroisse,
commune
c'est,
à l'époque.
C'est la commune, mais la division administrative, généralité, la généralité de Paris est divisée en 22 élections qui correspond à peu près la superficie à mi-chemin entre le canton et le département, c'est pas évident non plus. La généralité de Paris est divisée en 22 généralités, donc 22 élections. Donc ça n'est pas tout à fait un département, c'est un petit peu plus grand que le canton. Pour illustrer un peu ce découpage, le département des Yvelines se retrouve en partie sur l'élection de Paris, en partie sur l'élection de Montfort-l'Amaury, la totalité de l'élection de Mantes, donc l'arrondissement de Mantes, un petit bout de Dreux, etc. Donc c'est tout à fait une carte serait plus facile pour faire la démonstration. Donc ce qui représente un travail colossal. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire et à la tête de la Généralité de Paris, nous avons pendant 50 ans le père et le fils qui vont administrer la généralité. Alors, les pouvoirs de la...
Donc, c'est les Berthier de Sauvigny, c'est la famille
Berthier de Sauvigny. Berthier de Sauvigny, qui est intéressant, les Berthier de Sauvigny ne sont pas de l'Île-de-France, ce sont des bourguignons, mais on a tout de suite à l'esprit le bourguignon Vergennes, qui est un bourguignon et un très, très grand commis de l'État. Et à cette même période, on a une dizaine de généralités qui sont entre les mains de familles bourguignonnes. Donc, c'est assez particulier.
Il y a un clan bourguignon
qui tient. Il y a un clan bourguignon tout à fait qui tient la haute administration, c'est tout à fait... c'est à remarquer.
Lobby bourguignon.
Alors, le père de Louis Bénet, l'intendant qui va mettre en œuvre l'établissement de ses plans, c'est Louis Bénigne, le deuxième intendant de la famille Berthier. Il succède à son père, et son père est très favorable à cette fameuse réforme. Il a commencé déjà à la mettre en place sans attendre la décision de Louis XVI de 1776, et lui va commencer par faire l'arpentage pur et simple des paroisses. Et en même temps, il va envoyer sur le terrain ses commissaires fiscaux et on va déterminer la valeur de l'arpent et on va classer l'ensemble des paroisses de la Généralité de Paris en 22 catégories. Alors disons que la première catégorie, c'est celle dont le rapport par arpent est plus important, et la 24e est celle... donc on est là de plus en plus près de la réalité, des systèmes qui existent encore dans l'aspect foncier nous concernant, en ce qui concerne notamment les terres agricoles. Alors ensuite, Louis Bénigne Berthier, donc le fils de Louis-Jean Berthier de Sauvigny, va prendre les fonctions d'intendant en 1776, et depuis une quinzaine d'années, il est adjoint de son père. Donc il y a une succession tout à fait intéressante, il connaît parfaitement son métier. C'est le siècle des Lumières, on s'intéresse à la cartographie, etc. Donc lui va peaufiner le système en disant, le procès-verbal, l'arpentage, c'est bien, mais on va dessiner, on va faire le plan de toutes ces paroisses, et à lecture directe, on aura une information extrêmement précise. Alors c'est là qu'interviennent les arpenteurs qui vont se déplacer en lieu en large sur l'ensemble de sur
il y en a toute une équipe, hein, ils sont
alors ils sont... il y a une trentaine d'arpenteurs qui travaillent pour la généralité. Alors ces arpenteurs, ce sont des d'anciens feudataires. Hein, ce ne sont absolument pas des géographes ou des qui ont été formés à Charleville, à Mézières, les fameuses écoles que Louis XV a créées quelques années auparavant. Ce sont des gens de terrain et qui connaissent parfaitement leur métier. À telle enseigne que certains plans de paroisse, dont le transformé en commune, ont encore les mêmes superficies mesurées à la fin du XVIIIe siècle.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc ce sont les paroisses qui payent les frais de l'arpentage, du relevage.
Tout à fait. Alors,
qu'est-ce qui se passe quand
il y a... Alors, on va aller sur le terrain maintenant, si vous voulez, on va terminer cette démonstration et on va aller sur le terrain. Alors, l'intendant Berthier Sauvigny va commissionner un certain nombre d'arpenteurs. Il y en a 14 qui vont travailler sur les Yvelines, mais donc il y en a une trentaine qui travaillent sur l'ensemble de la généralité. Alors, les arpenteurs reçoivent donc mission de relever les superficies de ces paroisses. Alors, l'arpenteur vient sur la paroisse, prend contact avec le syndic. Le maire n'existait pas, la municipalité n'existait pas, donc c'est le syndic de la paroisse qui le reçoit, et le syndic est tenu de lui fournir
des indicateurs de limite. Parce qu'avant toute chose, avant de faire l'arpentage à l'intérieur, il faut faire le, il faut délimiter le contour. Alors c'est très amusant parce que ces procès-verbaux sont très pittoresques. On va, on marche pendant 25 pas en direction du puits de, d'Alfred. Ensuite, on va en direction de l'arbre en boule qui est à côté de la ferme Appel. Donc c'est tout à fait délicieux. On n'utilise pas encore la boussole. On l'utilise pour faire ce qui est intérieur, mais en ce qui concerne les limites d'arpentage, sont déterminées comme ça.
Parce qu'on n'est pas au Far West, hein, c'est pas tiré au cordeau.
Absolument
là,
pas, tout à fait. Non, mais c'est très compliqué 15... parce que vient rajouter, se juxtaposer les limites de d'image, qui sont pas forcément les limites de la paroisse. Alors le syndic doit fournir des indicateurs de limite. Alors sur l'ensemble des procès-verbaux que j'ai lus, qui sont conservés aux archives, un seul syndic n'a pas voulu fournir les indicateurs de limite. Alors l'arpenteur le consigne bien entendu dans son procès-verbal et il précise que c'est lui-même qui a payé les indicateurs de limite, sous-entendu qu'il fallait
la tendance le
rembourse. Donc c'est le seul incident qu'on a pu relever, bon, grâce aux archives. Ensuite, ces limites sont faites. Ensuite, les arpenteurs vont s'installer de point en point sur le territoire de la paroisse. Et ils vont commencer à faire leur mesure. Le système de la triangulation est très connu. Hein, ça pose pas de gros problèmes à partir du moment où il faut relever les superficies.
C'est un siècle de grand développement des sciences.
Tout à fait.
Des sciences physiques, des sciences de la nature.
Ces arpenteurs.
C'est là où on calcule. C'est à cette époque-là qu'on calcule le Joudifième, qu'on calcule le méridien. Je crois que c'est une équipe française qui calcule ça. Sous Louis XVI aussi.
Tout à fait. Donc on est très ouvert à tous ces problèmes scientifiques et mathématiques. Et je dois dire que les quelques ouvrages qui traitent de l'arpentage qui existent encore sont extrêmement précis et sont assez ardus, notamment ce qui concerne la trigonométrie qui n'est pas ma science,
oui,
qui est tout à fait passionnante.
Rassurez-vous, ce n'est pas la mienne non plus.
Mais c'est tout à fait extraordinaire. Donc ces gens vont mesurer les différentes superficies. Alors les superficies sont calculées par masse de culture. Le terme cadastre n'est pas approprié parce que le cadastre c'est le découpage parcellaire. Il n'y a pas de terme qui peut exprimer ou masse de culture, mais c'est trop compliqué. Donc ces gens vont faire les relevés qu'il faut. Ensuite, ils vont transcrire sur des minutes les relevés qu'ils vont faire. Et ensuite, ils vont aller en cabinet faire les plans que vous avez tracés, etc. Alors, ces plans seront corrélés suivant un certain code. Et les 200 plans que nous avons, qui sont arrivés jusqu'à nous, sont tout à fait extraordinaires. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils sont très justes. Et à cette époque-là, l'intendant Berthier de Sauvigny avait fait vérifier les travaux de ces arpenteurs, et il a fait mesurer par les géographes de l'Observatoire de Paris la superficie totale de sa généralité, et pour 20 000 km², on a 400 km² de différence.
C'est très peu.
Donc c'est très peu, compte tenu de la superficie globale et compte tenu de l'époque. Et alors, ce qui nous donne un nombre de documents, un volume de documents tout à fait extraordinaire, alors qui sont plus ou moins agréable à l'œil.
Il y a les 22 catégories, il y en a 2-3 catégories. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal.
On a classé, tout à fait arbitrairement.
Il y a les artistes.
Les arpenteurs en 4 catégories. Et il y en a un qui est en tête, tout à fait. Il s'appelle Denis Duchesne, pour le citer.
Citons-le.
Il nous a fait des plans tout à fait remarquables qui vont bien au-delà du document administratif. Parce qu'en fin de compte,
c'est un petit chef-d'œuvre, parce qu'il y a des dessins.
Alors ces dessins sont quand même extrêmement importants parce que notamment on va relever le moulin à eau, mais on va y indiquer le nombre de roues. Car s'il a une roue, il a un revenu de temps. Et s'il a deux roues, son revenu est pas forcément multiplié par deux, mais plus important. Donc tout ceci est important. Le moulin à vent, il est aussi précisé d'une manière évidente, parce que tous ces éléments vont entrer.
Ce bâtiment apporte une richesse supplémentaire à la terre.
Tout à fait dans le calcul de la taille sur l'ensemble de la paroisse.
Quelle précision et quelle méthode. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la grande déclaration déclaration de là, je vais demander un petit commentaire à ce déclaration de Louis XVI, donc, pour justement au moment où on lance la grande opération, il est précisé, le roi fait préciser que chaque déclaration, donc c'est tous les relevés qu'on fait, sera lu aux syndics, collecteurs et habitants assemblés qui pourront les contredire.
Alors là, c'est une mesure tout à fait extraordinaire et on a fait marche arrière. On a fait marche arrière depuis, certes. Mais effectivement, le déclarant, outre la déclaration écrite qu'il faisait, puisque la notion de déclaration écrite existe déjà, et il y a donc cette déclaration en public, c'est l'assemblée paroissiale qui se fait le dimanche à l'issue de la messe, etc. Enfin bon, c'est tout à fait intéressant, ces assemblées paroissiales qui existent pour bon nombre d'autres problèmes. Donc là, le syndic est présent et il y a déclaration orale et contestation immédiate à la fois du voisin
c'est
et
une,
du syndic.
Je permets de dire, c'est une authentique démocratie locale.
Ah, tout à fait, absolument.
Ça permet beaucoup d'insister là-dessus parce que des fois on croit que je ne suis pas démocrate, mais je suis pour la vraie démocratie.
Mais tout à fait.
Bien sûr.
Alors, ces opérations d'arpentage vont être contestées. Et alors, une seule contestation a été relevée sur l'ensemble des procès-verbaux. Une paroisse que je vais citer parce que c'est très amusant, c'est Orgerus, la commune d'Orgerus, dans le sud du département, conteste les superficies relevées par l'arpenteur. Et alors, le procès-verbal n'est signé que par l'arpenteur, alors que les autres sont signés du syndic, etc., des témoins, tout ça.
Ils ont refusé de signer.
Donc lui, l'ensemble des gens a refusé. Alors, l'arpenteur rentre, et Berthier de Sevigny, très flegmatique, donne 6 mois après, ordre à l'autre arpenteur de recalculer, et on trouve 400 arpents de moins.
Voilà.
Ce qui est extrêmement intéressant, car les frais d'arpentage sont à la charge des paroissiens, et en fonction de la superficie, et dans l'opération, les habitants d'Orgerus vont économiser 64 livres de frais d'arpentage. Donc c'est tout à fait amusant comme situation. Ce sont les deux seuls incidents, et Dieu sait, en ce qui concerne les impôts, il y a toujours de gros problèmes. Ce sont les deux seuls incidents qui ont été relevés sur ces procès-verbaux.
Un auditeur nous fait remarquer que c'est également à cette époque, donc cette époque du XVIIIe siècle, du milieu du XVIIIe siècle, que on a calculé la distance de la Terre à la Lune et de la Terre au Soleil à partir de points éloignés du globe. C'était un de mes ancêtres astronomes du nom de Delalande qui fit ses découvertes, nous dit cet auditeur. Bon, on félicite cet auditeur d'avoir un aussi prestigieux de la lande et comme ancêtre, et nous nous réjouissons beaucoup de voir que vraiment la France était tout à fait à la pointe de ces techniques. Un autre auditeur nous parle du cadastre de Sardes qui date de 1738.
Tout à fait.
Connaissez-vous, mais, et les géomètres se réfèrent encore à lui. C'est donc,
tout à fait, mais la finalité n'est pas la même. Le cadastre de Berthier, la finalité fiscale, le cadastre Sardes n'est pas du tout, n'a pas la même finalité. On fera à la même époque le cadastre de la Corse. Parce que la Corse vient d'entrer dans le plan pour essayer de serrer les problèmes fonciers de la Corse.
C'est extraordinaire, l'image qu'on se donne soi-même de son propre pays par la géométrie, par l'arithmétique, par l'algèbre. Moi, je trouve que c'est très, très émouvant de voir tous ces... Alors, il y a des dessins qui sont absolument, vous verrez, fabuleux. Je tiens tout à fait à dire à nos auditeurs que, outre l'exposition qu'ils vont pouvoir découvrir grâce à l'activité des archives départementales des Yvelines, la salle d'exposition se trouve à la Grande Écurie du Roi. C'est 1 avenue de Paris à Versailles. Alors, on peut vraiment pas se tromper si on arrive par l'avenue de Paris. C'est à gauche ou à droite, la Grande Écurie? Elle est à droite en descendant l'avenue, vers le château. On peut pas louper ça. Je vais donner un téléphone, deux fois même d'ailleurs, pour que vous puissiez éventuellement vous renseigner sur les heures, sur les visites commentées, parce que si vous avez la chance de tomber sur Jean-Joseph Millet, vous allez faire une visite absolument épatante, quoi, parce qu'il va tout vous expliquer dans le détail. Alors pour les renseignements, c'est le 01 39 07 73 04, je redis une seconde fois pour ceux qui n'ont, dont la mine du crayon vient de se casser, c'est le 01 39 07 73 04. L'exposition a été ouverte déjà depuis le 23 novembre, donc c'est dire si un certain nombre de franciliens ou d'Île-de-Franciens s'y sont rendus. Comment on appelle les habitants des Yvelines?
Les Yvelinois.
Yvelinois, Yvelinoises. Alors donc, et puis les autres d'ailleurs, tous ceux de l'ancienne... Tous les ressortissants de l'ancienne généralité de Paris sont priés d'aller à cette exposition. Elle est ouverte donc du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Elle est entrée libre. Et puis les visites commentées sont organisées à la demande. Elle se tient jusqu'au 23 mars.
Alors, en principe, il y aurait une prolongation jusqu'au 20 avril, en principe.
Alors, ben, si vous aviez la gentillesse, quand vous le serez, de me le dire, ce qui permettra peut-être, en fin février ou mars, de relancer dire, l'exposition, parce que les gens sont toujours pareils, tout le monde veut y aller, puis on n'a pas le temps, le bébé est enrhumé, la grand-mère a un problème, donc on n'y va pas, puis après ça passe, voilà, et on oublie. Donc, allez voir cette magnifique exposition, je vous redonne encore une fois, tiens, le téléphone, c'est le 01 39 07 73 04. Merci beaucoup. Avant de passer au sujet suivant, il y a beaucoup de messages qui sont arrivés qui concernent évidemment Mgr Vac. Tout d'abord, un auditeur de Radio Courtoisie qui est visiblement de nationalité anglaise dit à propos de l'émission en cours que catholique et monarchiste, qui est, on ne peut que féliciter notre ami auditeur. On félicite notre ami d'être à la fois un auditeur de Radio Courtoisie, un catholique et un monarchiste. Non, c'est vrai, j'ai le droit, non? Bon. Alors, il se permet de nous signaler que depuis 1649, année de la décapitation et assassinat de Charles Stuart Ier d'Angleterre par les révolutionnaires républicains et puritains, des messes catholiques sont célébrées tous les ans, donc depuis 347 ans, à la mémoire de notre roi martyr, The Martyr King. Le dogme de la chrétienté n'est pas qu'un drame, le drame de la chrétienté n'est pas qu'un drame français. C'est tout à fait vrai. Nous parlions simplement de Louis XVI, je parlais d'un personnage de notre histoire, mais les Stuart me sont tout à fait sympathiques, encore qu'aujourd'hui, ils n'existent plus dans la descendance que
c'était
par les vitesses.
C'était une querelle dynastique, et puis aussi c'était une guerre de religion, malheureusement, entre chrétiens.
Oui, c'est vrai. Et là, c'était dans le cas de la Révolution française, c'est pas tout à fait ça quand même. Il n'y a pas de querelle dynastique. Peut-être une qui se profile derrière, mais léger. Quant à la religion, passons. Alors, un auditeur nous dit, pourquoi choisir le Gabon pour une fondation alors qu'il y a déjà là-bas la fraternité Saint-Pédis? Question sans animosité, précise l'auditeur.
Tout simplement parce que nous avons des amis évêques au Gabon et qui nous ont demandé. Mais nous avons répondu aux évêques, amis, qui ont souhaité que nous venions travailler là-bas. Mais nous n'empêchons pas d'autres maisons de venir travailler au Gabon ou dans nos différentes maisons ailleurs.
Alors, un jeune auditeur, je suppose, dans l'émission que vous avez en Afrique, accueilleriez-vous un jeune homme pour vous aider 20 ans pendant... Un jeune homme de 20 ans, pas pour en aider 20 ans, hein. Un jeune homme de 20 ans, pour vous aider pendant quelques mois dans un but de dévouement et de formation personnelle.
C'est tout à fait possible, il faut qu'il nous écrive à Paris, 25 avenue de Lamballe.
Alors voilà, il faut écrire au Institut du Christ Roi, 25 avenue de Lamballe, 75-016 Paris.
Paris, et puis qu'il explique son cas, sur cette générosité-là, qu'il veut mettre au service des missions.
C'est très gentil, on a des auditeurs formidables.
Très gentil, oui.
On a même des Anglais qui nous écoutent, non mais vous vous rendez compte?
C'est très bien.
Alors ça c'est vraiment formidable.
Et il a tout à fait raison cet Anglais là.
J'espère qu'il ne nous écoute pas trop souvent parce que parfois j'ai la dent un peu dure, mais enfin bon, non, pour les catholiques, monarchistes et stuartistes anglais, je peux
d'ailleurs avoir nous avons des séminaristes anglais chez nous qui ont dans leur chambre, nous avons Louis XVI, un certain de nos séminaristes, et eux, ils ont les Stuart. C'est amusant quand on fait visiter les chambres. Non,
pas franchement bolchevique là-bas. Alors un autre auditeur, pourrais-je savoir si le monastère situé à Florence dont vous avez parlé est celui dans lequel les moines de Fongombo étaient pendant un moment?
Oui, autrefois,
ils ont été les premiers
quelques années.
Locataires.
Ils ont fait le lien entre la famille Martelli, qui s'est éteinte et qui a laissé à l'abbaye de Fongombo, et Fongombo qui nous l'a laissé après.
Voilà, puis un autre auditeur qui disait, mais pourquoi aller donc au Gabon, puisque de toute façon, il y a tellement de travail à faire en France?
Oui, mais justement, c'est la richesse de la France de pouvoir aller porter la nouvelle du Christ un peu partout. C'est l'esprit missionnaire, parce que si on se referme chez soi, c'est que même chez soi, déjà, on fait pas bien les choses. On a le cœur rempli de Dieu, eh bien, on veut aussi aller partout. Et d'ailleurs, on en voit aujourd'hui, je crois pouvoir dire que nos missions et le travail de nos prêtres en Afrique a un rayonnement, non seulement en Afrique, mais partout, parce que ça, c'est le mystère de la communion des saints et de la grâce.
Voilà, donc une auditrice demande de donner à l'antenne les coordonnées de tradition et communication. Enfin, c'est communication et tradition, ça, bon, quand on le demande, je le donne. Hein. C'est 22 rue Didot, Paris 14e, 22 rue Didot, Paris 14e. Le téléphone, c'est 01 45... Donc c'est 22 rue Didot, Paris 14e. Alors tout de suite, passons à Clovis, parce que le temps a passé à une rapidité terrible, mais nous allons passer à Clovis, parce que moi j'aime beaucoup René Musso-Goulard, elle le sait d'ailleurs. En tout bien tout honneur, j'insiste, hein, tout bien tout honneur, parce que René Musso-Goulard nous fait toujours des livres épatants. D'abord, c'est une spécialiste du Haut Moyen-Âge. Il n'y en a pas tant en France qui soit spécialiste de la question. Il y en a dont on parle beaucoup, d'autres dont on parle peu. Et ceux dont on parle peu ne sont pas ceux dont les travaux sont le moins intéressants. Vous voyez, depuis que je sais que j'ai un auteur anglais, je fais que de l'under, vous savez, bon. On avait déjà été épaté par le baptême qui a fait la France. C'est un très beau livre qui a été publié, c'était publié chez Perrin, c'est Perrin, ça, hein, chez Perrin. Et là, voici que vous nous offrez un petit clevis par rapport à la masse documentaire dont je parlais tout à l'heure et à la taille parfois très 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 respectable des livres. Vous nous offrez en 126-128 pages un condensé parfait de ce qu'il faut savoir, comme on dit à la télévision française, enfin la télévision quoi, sur Clovis. Et on a la chance que ce volume soit publié au Presse universitaire de France dans la petite collection extraordinairement connue et si pratique qui s'appelle Que sais-je ? Alors je dis tout de suite que c'est le numéro, comme ça on peut chercher sur les rayonnages. Le 3237e volume de la collection Que sais-je est enfin consacré à Clovis. Y avait-il un Clovis dans la collection Que sais-je avant que vous
apparaissiez ? Non, il n'y avait pas de Clovis dans la collection Que sais-je. Il y a toujours un livre remarquable sur l'ensemble de la dynastie mérovingienne, les Mérovingiens. Mais il n'y avait pas de livre sur Clovis, c'est pourquoi le numéro est assez fort. Alors que mon petit livre sur Charlemagne n'est qu'un numéro 400, parce qu'il a succédé au Charlemagne de Joseph Calmette.
Oui, parce qu'en plus, vous avez fait un Charlemagne dans cette même collection, qui en est à sa troisième édition maintenant, ce qui Charlemagne se porte bien.
Mais il n'est pas aussi coloré que le Clovis.
Voilà, parce qu'autrefois, il n'y avait pas la couleur. Maintenant, vous avez la chance pour le même prix. Voilà. D'avoir de très belles reproductions couleurs, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est imprimé en offset, donc c'est plus facile. Et autrefois en typographie c'était impossible, sauf à faire des encarts sur papier glacé, ce qui coûtait une petite fortune. Alors, Clovis, j'aimerais... Votre livre, nos auditeurs vont le découvrir, parce que tout le monde peut l'acheter, surtout je pense aux étudiants, aux jeunes qui veulent vraiment se documenter à pas trop cher et à bonne source sur Clovis, c'est le numéro 3237. Mais René, M. Goulard, moi je voulais vous poser une autre question. Je voulais vous demander, non, ne commencez pas à paniquer, ma question est très très gentille. Qu'est-ce que, vous qui êtes une spécialiste, vous êtes française, vous êtes une spécialiste de l'histoire de France, enfin, du Haut Moyen-Âge, qu'est-ce que ça représente Clovis ? Comment est-ce que vous figurez Clovis et comment est-ce que vous voyez Clovis aujourd'hui ? Quel écho Clovis peut encore avoir aujourd'hui ? Pour Clovis, vous êtes une spécialiste, mais pour les autres.
Oui, pour tout le monde. Clovis est resté un tout petit peu dans l'ombre par rapport à d'autres rois, tout simplement parce que l'approche du personnage est difficile. Nous n'avons pratiquement rien émanant directement de lui. Et il nous a même fait la mauvaise surprise de ne pas nous livrer sa tombe, que l'on a cherché beaucoup, alors qu'un roi qui a été complètement vilipendé, par exemple par Grégoire de Tours, le fameux roi Chilpéric, celui qui était sous les ordres de Frédégonde, celui-là, on a retrouvé sa tombe. Donc, pour Clovis, toutes les malchances étaient accumulées, on peut dire. Et l'historiographie ne lui a jamais délivré un intérêt particulier. Il faut dire aussi que l'Église s'en est peu occupée, parce que ce n'est pas un saint. Autant Clotilde a retenu l'attention du clergé, autant Clovis a été un tout petit peu laissé de côté, peut-être à cause de Grégoire de Tours, qui a un siècle un petit peu après la... Enfin, pas tout à fait un siècle, mais presque, après la mort de Clovis, lui a fait une assez mauvaise réputation dans les derniers chapitres qu'il lui consacre. Donc, il y a peut-être une injustice vis-à-vis de Clovis qui vient tout simplement du fait que on n'a pas pallié le manque de documentation que l'époque ne pouvait nous fournir. Alors, aujourd'hui, à cause peut-être de tout ce qui s'est passé, et par un besoin, je pense, profond en France, de connaître les origines d'une part de notre baptême, de notre christianisme, je dirais, définitif, car je crois que c'est comme ça que Clovis l'a ressenti. Il y avait eu avant des moments des martyrs depuis le second siècle. Il y avait eu des choses qui avaient existé, mais au sein d'un empire romain qui n'avait pas toujours été dans la voie rectiligne, avec des hérésies, un petit peu de tout. Et là, à partir de Clovis, le choix est fait. Donc il y a cette chose qui, dans la mentalité de la France, je crois, est très importante. Et puis, je crois surtout, c'est le premier roi. Et c'est le premier roi de nos trois lignages. qui en même temps ces trois lignages se retrouvent en lui.
Hein. Par les femmes,
il y a un sang qui circule de génération, de dynastie à dynastie sans aucun problème. Et surtout, je crois que dès le temps de Clovis, il y a une définition de la mission, déjà, de la France, c'est-à-dire d'une christianisation large du monde, alors que les empereurs byzantins se renferment et vont jusqu'à enfermer leur Constantinople dans des murailles. Hein. Donc, au même moment, il y a cette expansion, déjà souhaitée par Saint-David de Vienne, qui est quelque chose comme une mission qui est faite d'ouverture au monde. Et puis, il y a cette idée que un royaume est constitué par des hommes qui marchent pour la volonté de Dieu, dans le sens voulu par Dieu, et pour servir à la louange divine, mais en même temps pour assurer leur propre salut, c'est évident, n'est-ce pas ? Il ne faut pas non plus oublier ceci. Donc la notion de royaume naît, la notion de chrétienté est là, la notion de mission est là, et toutes les valeurs finalement fondamentales sur lesquelles le royaume s'est installé, sont déjà définis. Même si ce roi n'est pas sacré, n'oublions pas qu'une colombe est toujours représentée dans les représentations de son baptême, c'est l'esprit qui est là, c'est le triomphe de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu, et je crois que là, à cause de cela, Clovis est vraiment au point de départ de toute une histoire. Et ces 15 siècles, finalement, ont été très courts, dans la mesure où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de façon presque inchangée, il y a encore des hommes pour dire, pour reconnaître en Clovis leur ancêtre.
Alors, ce que vous avez dit, une parole qui est tout à fait extraordinaire, là, que je voudrais bien rebondir dessus, puis qu'on discute encore un peu sur cette notion, parce qu'elle est vraiment, vraiment fondamentale. Et si on veut comprendre ce que c'est que la France, il faut comprendre que le royaume précède la France.
Oui. Le royaume, c'est l'ensemble des hommes qui sont tous attachés à cette foi, qui a été donc choisi par Clovis alors qu'il n'en avait nullement besoin. Je crois que dans ce petit livre, j'essaie de dire qu'il avait tout déjà, la richesse, il avait la gloire militaire, il avait une reine qui était d'une famille très prestigieuse, la famille des Burgondes, c'est quand même une très très grande famille. Il avait beaucoup de choses, il avait aussi la bonne entente avec le bacilleuse de Byzance. On ne peut pas dire que Clovis ait eu besoin vraiment de quoi que ce soit. Donc c'est un choix qu'il a fait, qu'il n'a pas fait non plus par, je dirais, pour satisfaire au goût du temps, pour satisfaire ses futurs administrés. Il n'en avait pas vraiment besoin. Et au contraire, quand cette bataille de Vouillé lui livre le sud, c'est une époque justement où le roi Alaric était en train lui-même de faire des concessions pour essayer de avoir avec le monde catholique des relations un petit peu meilleures que ne l'avaient eu ses prédécesseurs. Donc il y a quelque chose chez lui qui malgré tout échappe à l'analyse historique. Sa conversion, c'est une affaire personnelle, une affaire de sa foi et de son dialogue avec Dieu.
Parce qu'il faut bien, je crois qu'il y a eu un certain nombre de lieux communs qui ont été développés l'année dernière, et même parmi des gens très intelligents, je ne dirai pas les noms à l'antenne parce que c'est toujours discourtois de cafeter son prochain. Et puis on ne fait pas ça ici généralement, mais enfin ça m'a beaucoup étonné de voir des gens très intelligents, que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, dire oh oui, mais enfin, le baptême de Clovis, ça c'est politique, il s'est converti à des fins politiques. Non, en fait, il n'avait aucun. Alors, la politique, moi, je suis pas un politicien. Chacun sait ici que je m'intéresse pas beaucoup de politique, ou alors si c'est vraiment la métapolitique. Mais enfin, s'il y a vraiment un choix qui n'était pas politique, c'était celui d'être catholique, enfin d'être lycéen dans un monde qui était, enfin tous les princes autour, tout le monde autour étaient tous ariens.
J'ai dit, c'est presque une fausse note vis-à-vis des princes ariens, vis-à-vis des dominants de l'époque. Et
c'était même dangereux au sein même de sa propre tribu, parce que eux n'étaient pas contaminés par l'arianisme, ils étaient parfaitement païens. On peut dire que
la sœur de Clovis était quand même elle-même. Il y avait quand même eu des
même vis-à-vis de sa tribu, c'était très dangereux parce qu'il est chef de guerre, mais il est un petit peu aussi le pontifex pour ces francs entre les dieux et la terre.
Bon.
Et s'il change, alors les choses changent aussi beaucoup.
Et je crois que finalement à ce baptême est liée donc cette bataille de Vouillé, à la suite de la bataille de Vouillé, l'affaire de Tours, dans laquelle là, je crois que quelque chose de nouveau apparaît. D'une part, l'unité du pays, qui n'avait jamais été faite avant. Il faut dire que Rome avait quand même deux gouvernements, l'un à Trèves, l'autre en Arles. Il y avait deux grandes séries de grands gouvernements en Gaule, que les Gaules avant Rome n'étaient que des Gaules au pluriel. Donc il fait pour la première fois le rassemblement, donc c'est pour ça qu'il y a un royaume. Il fait le rassemblement de tous ces hommes qui désormais appartiennent à un royaume. Et en même temps qu'il fait ceci, dans la cérémonie de Tours, eh bien, je crois qu'il se démarque de tous ses prédécesseurs, enfin de Basileus, il se démarque de tout le monde, il se couronne lui-même, faut pas l'oublier, et on a l'impression que c'est Martin lui-même, Saint Martin, qui est présent dans ce geste. Donc il épouse toute l'histoire du pays, il épouse la Gaule aussi bien que, enfin l'époque gauloise aussi bien que romaine et l'époque barbare, il épouse tout. Et dans ces espèces de noces qui existent déjà, c'est pas encore le corps mystique, mais c'est déjà c'est ça. Et dans cet acte, eh bien il nous accorde aussi quand même, et pour 1500 ans, car on ne l'a pas perdu depuis, et Dieu fasse que ça continue, il nous accorde la souveraineté.
Belle expression, l'expression du le royaume comme corps mystique. Oui. Ça, c'est une expression très médiévale.
Elle apparaît surtout à partir de Hugues Capet. C'est très curieux parce que les trois grands rois, finalement, qui ont fait le royaume, Clovis, qui a posé les bases, et à sa mort, évidemment, un moment de trouble, mais il avait donné les premières marques. Ensuite, on a Charles le Chauve, qui est un personnage très important dans l'histoire, et Hugues Capet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, avec Abon de Fleury et les canons d'Abon de Fleury qui sont publiés en 995 à la fin de son règne, où pour la première fois la notion de corps mystique apparaît, puisque avec Abon, ils reprennent la vision qui avait été celle du 4e concile de Tolède. Il est bien fou celui qui, de ses propres mains, prétendrait couper sa propre tête. Donc là, la notion de corps mystique est là.
On revient, ça nous fait revenir un peu à Louis XVI, hein, tout ça.
Et c'est nous sommes tout à fait, c'est pour ça que je suis très heureuse qu'on soit, d'être dans un bain Louis XVI, si j'ose dire, pour présenter Clovis. Car au fond...
Ils ont le même prénom.
Exactement, tout ça ce sont des Louis, puisque Clovis est resté Clovis parce que son nom s'est figé à un moment donné, où l'évolution de son nom en était à Clovis. Maintenant nous en sommes à Louis, je ne sais pas où nous irons par la suite, mais donc c'est une évolution du nom, mais ça ne change rien. Hein. C'est toujours le même combat pour Dieu qui existe derrière ces noms-là.
Donc c'est ça, pour ces anciens, donc le royaume est un corps mystique dont chacun des sujets est membre, mais dont le roi est la tête.
Dont le roi est la tête, et les grands donc sont l'expression de ses membres qui sont là, voilà. Donc c'est ce Clovis, je pense, c'est ainsi que je l'ai compris, dans d'abord une vue religieuse, c'est certain, mais dans une vue aussi de création d'un royaume, qu'on ne peut pas couper de l'idée religieuse. Le Moyen-Âge ne comprend pas la différence entre les deux. Tout est mêlé au Moyen-Âge. C'est dans l'esprit des gens du Moyen-Âge. Et à notre époque, on ne peut pas comprendre Clovis si on ne prend pas les mots, les idées et les sentiments qu'il y avait à cette époque-là. Alors cela ne nous est donné que par les sources.
Voilà, c'est
très important. Et pourquoi j'appuie toujours tout mon travail seulement et uniquement sur les sources. Alors quelquefois, je parais un petit peu trop optimiste vis-à-vis de certaines sources, je ne le crois pas. Eux ont le mérite d'avoir été plus près de la chose que nous. Et Clovis, finalement, même la date de son baptême, nous ne la connaissons pas vraiment. Rien ne nous permet de reconstruire tout cela. Quelques éléments nous permettent d'approcher. Nous avons un terminus postcon, nous savons que c'est après 496, mais rien ne nous autorise à fixer la date exactement. Et c'est tout.
De toute façon, peu importe la date, ce qui est important.
Elle est à la fin, vraisemblablement.
Et c'est vrai, pourquoi ne pas croire qu'il y a aussi en matière de souvenirs historiques une tradition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le texte qui fait foi, mais il y a aussi la tradition qu'on a recueillie par différentes voies qui est elle-même, peut-être parfois il faut un petit peu l'émonder, mais dans l'essentiel, elle apporte beaucoup d'informations.
Et puis de toute façon, la tradition est une bonne chose, l'histoire ne peut pas vivre sans tradition. Donc les traditions et tout cet apport est une nécessité pour arriver à comprendre Clovis. Clovis méritait, je crois, l'hommage qui lui a été fait cette année.
Il a été surtout l'hommage, on est d'accord qu'il a été surtout l'initiative, pour l'essentiel quand même, par l'Église de France, etc. Mais enfin, quand même, c'est plutôt des initiatives privées. On peut pas dire que l'État soit vraiment beaucoup.
Oui, mais il est essentiel de voir combien il y a eu d'initiatives privées. Oui. Vous évoquez vous-même toutes les publications, mais combien de conférences?
Des milliers de conférences.
Clovis nous a épuisés cette année. On est allé de ville en ville, quelquefois même dans des sous-préfectures, etc., où l'on nous demandait Clovis.
Et donc, le pape s'est dérangé pour
Clovis. Et le pape s'est dérangé pour Clovis.
C'est dire que quand même, pour cette fille aînée de l'Église, il y avait un clin d'œil du pape, c'est vrai.
Merci René Musso-Goulard. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, d'un excellent Clovis, dont vous venez ici de nous donner les akouskis. Maintenant, il faut passer au plat principal, il faut dévorer ce livre. C'est la collection Que sais-je, célèbre des presses universitaires de France, le numéro 3237. Nous recevions également, au cours de cette émission, Jean-Joseph Millet, dont j'ai oublié de préciser, au sujet de l'exposition Le Calas, Liberté, souligner qu'il y avait, j'allais le dire, et puis je me suis coupé, un magnifique catalogue qui était édité. C'est un auditeur, d'ailleurs, qui me rappelle à mon devoir, il est proposé aux visiteurs un remarquable catalogue qui est presque un livre. C'est un livre qui reproduit la plus grosse partie des cartes. C'est un livre tout à fait magnifique. Donc, cette exposition, vous pourrez aller l'admirer aux archives départementales des Yvelines. C'est à Versailles, avenue de Paris, Grande Écurie du Roi. Vous téléphonez pour tout renseignement au 01 39 07 73 04. Et puis, nous recevions également Monseigneur Gilva, qui est venu nous parler un petit peu de Louis XVI, mais aussi de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. Alors, si vous voulez d'autres informations, il vous suffit d'appeler, il vous écrit d'écrire au 25 à Paris. Institut du Christ Roi, 25 avenue de Lamballe, 75 016 Paris. Alors, un auditeur nous demande si Clovis repose bien sous le lycée Henri IV. Il y a toute chance qu'il soit quelque part là-dessous.
Il est certainement dans cette zone-là encore, voilà. Que ce soit assez difficile de retrouver sa tombe.
D'accord, nous avons répondu à une autre question sur la date du baptême. Peu importe, c'est l'événement qui compte, c'est pas la date.
Voilà, exactement.
Et voilà, et l'auditeur me dit que si M. Amiche faisait la première partie à la place de Serge Becquet qui ferait la seconde, il ne serait pas amputé de 20 minutes à chaque fois. Je trouve cette réflexion d'un profond bon sens et j'en remercie l'auditeur. Éditeur comme l'éditrice qui trouve que l'émission était très intéressante, elle l'était en raison de la qualité, bien sûr, de nos invités de ce soir. Chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, et puis je remercie bien sûr les auditeurs de nous avoir écoutés en direct ce 22 janvier. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, la semaine prochaine, en attendant bien sûr que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Becquetch, dirigé successivement par Serge de Becquetch, assisté de Victoria et par Daniel Amiche. Document d'archives du 22 janvier 1997, rediffusé dimanche 24 octobre 2008 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse sur Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 4h55.